On va se gêner sur Europe 1.
15h30, 18h, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarotte.
Ouais.
Pierre Bénichou.
Ouais.
Jean-Marie Bigard.
Ouais.
Stevie Boulet.
Ouais.
Et Michel Bernier.
Ouais.
Ah Michel, j'ai des tas de mails d'auditeurs qui sont heureux de vous avoir vu sur W9. Je savais pas que le spectacle avait été diffusé sur W9.
Mais oui, on a eu cette
Moi,
chance.
Connement, je suis retourné à l'Olympia alors que j'aurais pu regarder devant la télé.
Non, mais j'étais si contente de vous voir, Laurent.
Ah, vous avez regardé à W9 ou
non,
vous êtes allé à l'Olympia,
moi.
Vous ah, vous êtes à l'Olympia, vous. Sérieusement?
Non.
Non. Je l'ai pas vu.
Pourquoi vous dites ça alors Michel, à un moment donné, a dû penser que vous étiez même pas allé la voir à la
mais
fin.
Non, c'est pour dire à Michel à quel point je suis navré de pas y être allé. Je devais y aller, puis des impedimenta.
Des quoi?
Ah, oui, oui.
Des impedimenta, c'est des cousins qui t'allient.
Nathalie, je crois, est venue vous voir. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes allée à l'Olympia?
Ah oui, jeudi dernier, c'était fantastique. On a ri, on a pleuré. Toute une troupe de cinquantenaires. On a passé une excellente soirée et j'étais ravie, mais je suis pas contente après vous parce que vous avez été odieux avec Michel la
Moi
semaine dernière.
Moi? Tous? Ah oui, c'est vrai qu'on s'est un peu lâché la semaine dernière.
Oui, oui, et ben, faut pas toucher à Michel.
Hein, parce que, non, mais ce qui s'est passé, qu'on vous raconte ceux qui étaient pas là, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est marrant, on se vanne tous, on balance des vacheries sur les uns et les autres, mais il y en a qu'une qu'on attaque jamais, c'est Michel Bernier. Et là, on s'est dit, bah, tiens, pendant 2h30, on va le faire. Et elle en a pris plein la gueule pendant 2h30. Et voilà, ben, les auditeurs étaient pas contents.
Mais elle s'est pas rebellée, ça, j'ai pas compris. Ben, elle est trop gentille, Michel.
Ben, je peux vous dire que si j'avais été là, ça serait pas passé comme ça, parce que moi, qu'on touche pas ma petite Michel.
Ah oui? Ah,
ben, ben, moi
voilà.
Non plus.
Ah, ben, voilà. Et moi, pareil, hein.
Mais en substance, c'était quoi les trucs les plus méchants?
On va pas les répéter,
s'il te plaît, parce que là, je peux me rebeller maintenant.
D'accord. J'ai aussi une inquiétude, c'est Ludovic. Alors là, lui, je le comprends, Ludovic. Hein. Au revoir, Nathalie.
Merci, Nathalie. Gros bisous.
Ludovic qui dit, mais où est passé Joujou? En effet, cela fait plus de 10 jours qu'on n'entend plus Jérémy Michalak dans votre émission. On n'entend plus ses ricanements, ses bonnes réponses, une source d'inquiétude pour moi. A-t-il fait naufrage avec le Concordia? Souffre-t-il toujours d'une monstrueuse gastro? A-t-il été enlevé par un gang de Strasbourgeois en représailles pour ses déclarations passées? Ou l'avez-vous viré parce qu'il refusait que vous posiez vos mains sur son corps d'albâtre? Plus prosaïquement, est-il en vacances? Ou pire, est-il en train de filmer la convalescence de Loana pour Énergie 12? C'est plutôt la dernière solution. Parce qu'effectivement, il est, je crois, à Los Angeles ou à New York pour continuer à tourner ses excellentes émissions. Pierre.
Ça voyage, ces petites bêtes-là?
Ah, bah oui, il va revenir.
Mais il est en soute.
Vous savez que j'ai des nouvelles.
J'avais même oublié, moi.
Joujou?
Oui.
Oh, bah non, mais il va revenir.
Il revient.
Comme Christine Bravo qui reviendra dans 3 mois, vous avez vu, vous lui manquez.
Christine Bravo, moi j'ai jamais pu la blairer alors.
Oh, mais non, Christine, elle m'a envoyé un joli mail pour dire combien elle vous admirait, combien sa fille vous admirait et tout. Je vous l'ai lu avant l'émission.
Mais oui, mais il veut que tu le répètes à l'antenne. Ils sont une
Moi, je te sers la soupe, moi. Je te sers la soupe et tu c'est pas vrai. Elle m'a écrit un mail très gentil et je l'aime beaucoup, moi aussi.
Un message pour Stevie. Vous avez parlé, cher Stevie, c'est Dominique qui me l'écrit à plusieurs reprises, de vos terriers du Tibet. J'habite au Mans et mon terrier du Tibet est mort à l'âge de 17 ans.
Waouh!
La race est dure à retrouver. Avez-vous l'intention de faire des petits demain?
Ça y est, j'ai déjà fait, mais comme le vétérinaire, il nous avait dit 3-4 chiots au grand maximum, on en a eu 7. Après, on l'a fait opérer, Fifi.
Pourquoi? Pourquoi pas plus de 3-4?
Ah, parce que c'est du boulot, les lâchers de chiots, les petits caca, les petits pipis. Tu sais que c'est beaucoup de travail d'avoir 7 chiots à la maison. 9 chiens en tout, c'est invivable, c'est pas possible. Donc, une fois comme ça pour essayer, mais maintenant c'est fini.
Mais vous les faites reproduire entre eux, rassurez-moi, vous faites pas
tu
ça vous-même.
Tu n'auras donc plus d'enfants.
Ah bah non, t'es ouf.
Thierry, bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous allez bien?
Extrêmement bien, merci Laurent, ça va très bien. Bonjour à toute l'équipe.
C'est votre anniversaire aujourd'hui, c'est ça?
Absolument.
48 ans, il a 48 ans aujourd'hui.
Tu arrives alors, tu arrives.
Alors je voulais juste vous permettre de faire un énorme bisou, de dire à Claude que moi je l'aime tout le temps, toujours.
Ah mon amour.
Voilà, et nous sommes des millions à t'aimer Claude.
Oh,
pardon
merci
de te tutoyer, mais... c'est comme si je parlais à ma grand-mère. Ah. C'est
oh, tu vas pas bien.
Ah, tu dois avoir.
Toi aussi, tu es dans le désert.
Tais-toi.
Tu dois avoir du succès avec les femmes, toi, de dire à une jolie femme comme ça. C'est comme si je parlais à ma grand-mère.
Ah,
oh, quel malin.
Non, écoute,
quel gentleman.
Comment s'appelle cet enfant?
Pierre Bénichou.
Non.
Thierry.
Thierry. Salaud.
Thierry,
je, oui, tu ne veux pas savoir le plaisir que tu me fais. T'as vu comme ils sont jaloux.
Il hein. ne faut pas les écouter, Claude. Il faut juste ressentir la bonté que nous avons envers toi. Et c'est tout. Mais le reste, ça n'a pas d'importance. Gros bisous à Michel également. Pardon, je voulais.
Non, mais c'est quand même. C'est quand même terrible.
Il aime bien les femmes mûres, hein, Thierry.
C'est quand même terrible ce que vous lui faites. Tu sais comment elle vous a surnommé ? Thierry Lafron.
Hassan est au téléphone pour parler du Sénégal. Bonjour Hassan.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous nous appelez depuis le Sénégal ?
Ah non, je vous appelle de Paris.
Oh, bah c'est beaucoup moins rigolo alors.
On est très déçus.
Arrêtez de prendre cet accent là.
Parlez-nous normalement.
Ils sont cons alors. C'est pas possible. Hassan, moi je pensais que vous alliez nous faire un point sur la situation politique parce que
ouais,
ça chauffe.
Ça chauffe, hein.
Ça chauffe là.
Chaque jour, je suis l'évolution de la situation à partir de chez moi.
Eh oui, parce que je comprends pas moi ce président. Quand il est arrivé, monsieur Ouad, là, tout le monde disait qu'il était super.
Ouais.
Non, c'est celui qui est parti qui est super parce qu'il a reconnu sa défaite avant même la publication des résultats. Il a laissé faire ses deux mandats et lui. Il n'avait que 71 ans, c'est Abdou Diouf dont Daniel Evnou parlait hier.
Ouais.
Mais lui, il a fait ses 12 ans de mandat, il a été élu, réélu, il a gagné les législatives, les locales et tout. Et on lui a tout donné, un référendum et tout. Et là, il ne veut pas partir parce qu'il dit que la Constitution lui permet deux mandats et son premier, ça ne compte pas.
Eh oui, c'est ce qu'on a expliqué, ça, on l'a bien expliqué hier quand même.
Ouais, vous parlez du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ?
On parle du Sénégal.
Ah ouais, mais
parce qu'hier, on rappelait que la première dame sénégalaise était française, madame.
La première dame sénégalaise était française.
Ah, oui, tout à fait. Elle vient de Besançon, monsieur Pierre Benichouin. C'est bien ça, Hassan ? Ouais.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est juste à propos de Karim Ouad que vous êtes un peu trompé.
Voilà, ça.
Vous avez dit l'essentiel, hein. C'est juste qu'il n'a pas été. Il ne s'est pas présenté.
Mais j'arrive pas à comprendre ce président. Quand on a. Quel âge il a ? 80 ?
86 ans et tout le monde dit qu'il en a plus, hein.
86 ans. Quand on a 86 ans, qu'on a fait deux mandats, puis qu'on voit que son pays est à feu et à sang, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, on n'a pas l'intelligence de dire bon, bah écoutez, je m'en vais puisqu'on veut plus de moi. Non, jamais.
Quand on a la trempe pour devenir chef d'État. Quoi qu'il arrive, on ne réagit pas comme les autres. Nous pensons, oh ben j'ai 63 ans, je vais arrêter. Non, ils ont 86 et ils continuent. Parce que c'est dans leur gêne de vouloir être au pouvoir, de commander.
Ouais, c'est dur de lâcher le guidon. Hein.
Mais bien sûr, moi c'est un peu comme moi. C'est un peu comme moi. Moi je jette mon père dans la crèmerie là. Hein. Il me dit maintenant, tu pourrais t'arrêter un peu. Non, monsieur, je continue, je suis là. C'est moi qui compte tout, les lentilles, le machin que je fais. Je fais tout dans le truc. Je suis un peu comme le président Ouad. D'ailleurs, ma femme est française aussi.
On vous remercie, Hassan, pour votre témoignage.
Merci beaucoup, Laurent, et bonne suite d'émission.
Ben, je vous en prie, bonne suite pour vous aussi. Quelle est la différence entre un curé et un bouton d'acné, me demande Kédia.
Ça a l'air bien, ça.
L'acné ne jaillit pas sur le visage d'un jeune garçon avant l'âge de 12 ans.
Oh non. C'est marrant ce genre de truc qui vous fait rire, c'est marrant.
Bah, si ça fait rire, Michel.
Ah, si c'était un rabbin ou un imam, là, vous seriez tous à dire c'est honteux, tout ça.
Mais non.
Et alors, des
pas
curés, on peut tout dire.
Pas chez nous.
Des curés, on peut tout dire.
Il y en
a marre. Moi, je défends cette religion.
C'est-à-dire que c'est surtout les curés qu'on a découverts.
Je
parce
défends
que les autres...
cette religion catholique, moi. Je la défends parce que c'est honteux ce qu'ils font. C'est pas pour une pipe de temps en temps.
C'est Staline qui se lève un matin. Je la connaissais pas cette histoire, mais vous devez sûrement la connaître. Claude et Pierre, parce qu'elle a sûrement une longue barbe, cette histoire. C'est Staline qui un matin se lève et dit, oh là, il fait très très beau aujourd'hui. Il s'adresse au soleil et dit, soleil, dis-moi qui est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Le soleil n'hésite pas une seconde. Il dit, c'est toi, oh Staline, lumière de l'univers. À midi, Staline remet ça. Il voit qu'il y a encore du soleil dehors. Il dit, dis-moi, soleil, qui est le plus brillant, le plus génial, le plus remarquable homme de tous les temps. Le soleil confirme, c'est toi, oh Staline. Avant le dîner, Staline ne peut résister au plaisir de redemander au soleil qui est le meilleur communiste du monde. Le soleil lui répond, t'es qu'un malade, Staline, un psychopathe, un fou furieux, un criminel, et je t'emmerde puisque maintenant je suis passé à l'ouest.
Très joli. Ah, bravo.
Vous connaissiez pas ?
Non.
C'est quand même pourtant pas une histoire nouvelle, je pensais au moins que vous la connaissiez, Pierre.
Non, non, je connaissais pas celle-là, j'en connais dans le genre avec des dictateurs. J'en connais beaucoup d'histoires comme ça, mais pas beaucoup. Il y en a une que j'aime bien, c'est Franco. C'est en Espagne sous Franco. Il y a un mec, un ouvrier qui tombe du 63e étage. Il arrive par miracle sur une plate-bande, il tombe sur une auto, chose. Il est indemne.
Et les gens, alors, il est content, les gens sont contents avec lui. Et il y a ses copains qui viennent lui dire, mais pourquoi tu criais Abba Franco? Il dit, je voulais qu'on m'arrête.
Hier, on a parlé du fiancé de Shakira. Vous savez, la chanteuse Shakira, le footballeur Gérard Piqué. Il n'est pas espagnol, il est catalan, me disent des auditeurs qui veulent faire la différence.
Ça change tout.
Ah, ça change tout, hein, mais quand même, Gérard Piqué n'est pas espagnol, il est catalan, il n'est pas espagnol. J'ai des tas de mails, c'est incroyable.
Ça, c'est de la connerie. C'est comme si on disait, monsieur Matin n'est pas québécois, n'est pas canadien, il est québécois. Oui, il fait partie d'une province.
Rassemblons tout le monde, il est ibérique.
Non,
mais c'est vrai.
Sois poli.
Non, qu'est-ce que tu veux dire de...
Et surtout, tout le monde est jaloux parce que c'est lui qui tape Shakira.
Caro me dit, j'ai beau réfléchir, mais je ne vois pas pourquoi vous gardez dans votre équipe Stevie et Daniel Evenou. Ah. Hormis que Daniel Evenou a dû coucher avec tous les hommes de Paris de plus de 60 ans et Stevie avec tous les hommes de Paris de moins de 30, détestez-vous donc la ménagère de 40 ans? C'est plutôt rigolo quand même. Ah, comment ça, c'est pas gentil, Pierre?
Non, c'est pas gentil, parce que tu dirais d'autres, on dirait, mais non, c'est une plaisanterie, tandis que c'est limite, quoi.
Pourquoi gardez-vous Claude Sarraute, qui ne voit jamais la rosée du matin à cause du rosé de la veille?
Ça, c'est bien écrit.
C'est excellent.
C'est une série de blagues comme ça qui sont envoyées, qu'on trouve sur Internet, en fait. Si Hitler s'était appelé Pépito, les nazis auraient dit Heil Pépito. C'est quand même plutôt rigolo aussi, ça. Didier Bourdon m'a téléphoné, mais j'ai pas répondu. Je parle pas aux inconnus. Bon, moi, je sais. Vincent me demande d'appeler son épouse, qui s'appelle Myriam, pour lui dire qu'il l'aime très fort. Si ça pouvait être fait par vous, Laurent, je préférerais, car je n'ai pas confiance en Pierre Bénichou. Pourriez-vous lui téléphoner lundi ou mardi, car ce sont ses jours de repos, elle décrochera. Elle comprendra ainsi que j'écoute une superbe équipe bien sympathique, même si elle ne vous écoute pas. Ah, on va tenter d'appeler Myriam, alors. Lui, il croit qu'elle est chez elle pendant ses jours de repos.
Oui.
Ah, bonjour Myriam.
Oui, bonjour.
C'est Laurent Ruquier à l'appareil.
Oui,
bonjour Myriam. Oh, il y a du bruit sur la ligne.
Ça l'étonne en plus.
C'est bien votre mari, Vincent, qui m'a écrit, Myriam.
Ah, je ne sais pas.
Ah oui.
Parler.
Ben si, moi, il me dit, dites à ma femme, Myriam, que je l'aime très fort.
Ça va pas bien en ce moment?
Écoutez, je suis ravie.
Ah bah, il me dit que vous ne travaillez pas les lundis et mardis.
Alors, on voudrait savoir où tu es, s'il te plaît.
Et que je pourrais vous appeler aujourd'hui pour vous envoyer un petit message d'amour de sa part. Puis il aimerait bien que vous nous écoutiez, vous aussi.
Et il aimerait bien que ce soit propre quand il rentre.
Parce que vous nous croyez à ces Jean-Marie Bigard et Michel Bernier que vous avez entendu.
Donc, je les ai reconnus, oui.
Ah, vous les avez reconnus, c'est sympa. Et Pierre Bénichou
aussi.
Et est-ce que vous connaissez Stevie?
Aussi.
Ah ben voilà, Stevie, dites un mot à Myriam.
Bonsoir Myriam.
Ah ben non, mais là, elle va pas vous reconnaître si vous parlez comme ça.
Ça va, Myriam?
Voilà.
C'est mieux. C'est déjà mieux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être en repos les lundis et mardis?
Ah ben, je suis chef de périculture.
Auxiliaire de périculture.
T'occupes des petits.
J'ai bien compris, Michel.
Mais Myriam, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre mari pour qu'il, comme ça, qu'il vous envoie un message d'amour?
Ça ne s'explique pas, c'est la chimie.
Dernièrement, il ne s'est rien passé de spécial. Il n'y a pas eu un autre mec dans ta vie, un truc comme ça.
Alors, c'est que c'est lui qui a des choses à se faire pardonner.
Ouais.
Non, c'est un homme extra.
C'est vrai? Il fait quoi?
Il est peintre en bâtiment,
ou c'est un artiste?
Ouais. Peintre en bâtiment, oui.
Peintre en bâtiment. Et là, en ce moment, il doit être en train de vous écouter sur son chantier, à travers un poste de radio, peut-être.
Et non, c'est fort possible, parce qu'il vous écoute tous les jours.
Et pourquoi il nous a demandé de vous appeler, ma petite Myriam.
Ça doit être terrible d'être peintre spécialisé en voiture, et tu es obligé de peindre des Picasso toute la journée.
Ah, c'est joli. Très joli. On vous embrasse, Myriam. Tiens, je vous fais même choisir le disque qui vient. Vous voulez?
Yeah.
Ah, ok, super.
Vous avez le choix entre Thomas Dutronc, Les Chats Sauvages ou Cœur de Pirate.
Ah, Thomas Dutronc.
Thomas Dutronc, on ne sait plus s'ennuyer. Un extrait de son album Silence, on tourne en rond. Bonjour, je m'appelle Samia, j'ai 19 ans et mon ami Théo cite continuellement On va se gêner. Il emporte son iPod pour écouter Pierre Bénichoux partout où il peut. Il le cite même lors de ses oraux. C'est dire, c'est infernal. Il ne s'arrête pas. Ne vlati pas est devenue son expression favorite depuis qu'il l'a entendu de la bouche de Pierre. Il n'arrête pas de dire ne vlati pas, ne vlati pas, ne vlati pas.
Je dis pas ne vlati pas, je dis vlati pas.
J'aimais Pierre Bénichoux jusqu'à ce que Théo, mon ami, devienne fan. S'il vous plaît, faites qu'il arrête. Faites-lui comprendre qu'il n'est pas Pierre Bénichoux. Peut-être qu'un appel le calmerait. Je vous laisse son numéro. Ah ben, on va l'appeler alors. PS, entre Jeanne Moreau et Claude Sarraute, aucun doute, je vote Claude Sarraute. Sa voix est fabuleuse.
Merci, ma chérie.
C'est vrai que vous avez de plus en plus la voix de Jeanne Moreau, Claude.
Non, c'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
Messagerie Orange.
Ah bah il est pas là. Ah. Il est pas là, Théo.
Je vais lui dire un mot quand même.
Ah bah oui, allez-y Pierre. Laissez-lui un message.
Vlati pas que t'es sur répondeur maintenant.
Ça suffit, va vous reconnaître,
ah
je
oui,
pense.
Je pense que c'est
on vous embrasse, Théo. Bon, on a un dernier numéro qu'on va tenter, hein, mais c'est le dernier avant 16h. Quelqu'un qui passe le cap des 25 ans aujourd'hui, un coup de fil anniversaire, c'est Clémence qui demande qu'on appelle Salah. Salah, c'est un de nos auditeurs les plus fidèles. Il vient de temps en temps dans le public.
C'est oui, un monsieur... le beau barbu, là.
Ah, vous, comment vous le connaissez?
Ah, parce que je suis ami avec lui sur Facebook. Il est super sympa, en plus, ce gars-là. Voilà, intelligent.
Un grand barbu. Souvenez-vous, un jour, quelqu'un avait eu peur parce que...
Oui.
Sur le répondeur SFR du 0.
Oh ben personne n'est là aujourd'hui, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous?
Il a de la chance de ne pas être là.
Pourquoi?
Parce que j'aurais dit ma fameuse phrase fétiche.
Allez-y.
Qui comme il s'en a, puis qu'on peut balayer.
Oh. Eh ben bon anniversaire, Sala. Une petite question, j'ai le temps d'une petite question juste avant le journal et les titres de 16h. Ce soir, on va voir quelqu'un à la télévision jouer à Chabit. De qui s'agit-il?
Ah, Chabit.
Oui. Est-ce que c'est un animateur? C'est un animateur.
Chabit seul avec maman dans un très grand appartement? Non.
Sarrazin,
vous connaissez pas Chabit?
Non, c'est un jeu.
Expliquez. C'est un genre de cache-cache.
Non, c'est pas un cache-cache, c'est un loup. Mais tu dois toucher, après t'es le loup, quoi. C'est
voilà, Chabit. C'est ça, Chabit. C'est... Voilà, tu touches l'autre, là où il faut pas toucher.
Oui, je sais,
et
je
tu
sais,
pars en
sais.
Courant.
Tu lui touches sur le sexe.
Voilà, exactement.
Moi, je joue que à bit, mais c'est
les,
sympa.
Les enfants jouent à ça dans la cour de récréation.
Ah, bah, pas de mon temps.
Ah, bien, pas de votre temps, peut-être, mais aujourd'hui.
Dis, Chabit, t'as pas le droit de toucher à ton père. C'est-à-dire, t'as pas le droit de toucher celui qui t'a touché. Tu dois toucher un autre.
Voilà, exactement. C'est Chabit. On joue ça dans la cour de récréation.
Non, mais c'est parce que Claude, elle se rappelle plutôt de Shabbat. C'est pour ça.
C'est vieux comme le monde, Chabit.
Moi, j'avais jamais joué. Je ne connais jamais. J'avais entendu ça une fois ou deux quand j'étais petit.
Et là, ce soir, on va voir quelqu'un. D'ailleurs, la preuve que c'est vieux comme le monde, parce que
Juliette Binoche.
Qui? Non. Pourquoi Juliette Binoche?
Parce qu'elle elle racontait que dans un film. Arrête pas de se toucher. C'est un film où elle raconte la plainte. Écoute, je l'ai entendu chez. Tu sais chez qui?
Non.
Bruce Toussaint.
Ah oui, alors
oui, absolument. Elle était là et elle parlait avec Nikos
Aliagas. Nikos Aliagas.
Et donc, tu vois, en plus, ce monde-là, c'est extraordinaire. Bon, peu importe. Et il lui disait, vous jouez dans un film sur la prostitution étudiante. Alors elle dit oui. La prostitution, parce que il y a un moment, vous craignez pas c'est un film pour dire à quel point c'est dangereux, c'est terrible, c'est horrible, mais à quel point on est un peu voyeur. Alors elle dit, oui, c'est toujours la double démarche de ce genre de film en même temps, hein. Et il dit, mais la scène terrible où vous vous touchez.
Ah, il a pas dit ça, parce que je me suis demandé.
C'est elle qui a dit, toutes les filles qui se touchent me comprendront. Alors moi, j'aime pas beaucoup ça sur une radio. International, tu te rends compte des gens en podcast et tout qui entendent ça d'une actrice qui a eu l'Oscar, c'est pas comme Desjardins, il n'a pas encore eu. Non, sérieusement.
On peut revenir à qui on va voir jouer à Chabit ce soir
bon,
à la
alors,
télévision.
Alors si ça c'est pas intéressant,
Nico.
Qu'est-ce qui est intéressant?
Quoi?
Nikos.
Comment ça, Nikos?
Mais je réponds à ta question idiote. Qui va jouer à Shabbat
dire idiot.
Ce soir?
J'ai vu l'imbécile.
Il n'aime pas.
Il n'aime pas qu'on lui parle.
C'est la féminin. Question qui est idiote, c'est pas moi, Pierre.
Ah bon, parce que dis donc, je t'aurais dit de sévir. Hein,
c'est sur une chaîne nationale, enfin RTL.
Oui, oui, ce soir sur une chaîne
M6.
Si je vous en parle, c'est parce que c'est étonnant. On va la voir ce soir jouer à Shabbat.
Alors c'est
une femme.
Avec des beaux marins en plus. C'est une femme.
C'est sûr que c'est une femme?
Oui, oui, oui. Pourquoi? Qui vous pensiez?
Moi je pensais à Mandalir.
Encore? Pourquoi elle?
Parce que j'avais des beaux marins.
C'est une journaliste?
Non, pas du tout.
Chanteuse.
Non, pas du tout.
Une animatrice, t'as dit.
C'est une personnalité politique.
C'est des documents qu'on va voir, qu'on ne connaît pas forcément, et on va la voir pour la première fois jouer à Chabit avec des beaux marins.
C'est une actrice.
Oui.
C'est pas une actrice.
Une femme politique.
C'est Simone Veil.
Simone Veil.
Bien sûr.
Non, mais elle le fait pas de nos jours, elle le fait, c'est un documentaire. C'est quand elle était petite.
C'est quand elle était jeune, oui. Oui. Ça aurait pu être Simone Veil, c'est vrai, après tout, pourquoi pas. Mais c'est pas Simone Veil.
Daniela Lombroso ?
Non. Oh. Il y a très peu de documentaires sur Daniela Lombroso.
Mais non, parce qu'à une époque, elle faisait des clips sur un bateau.
Je sais qui c'est.
Allez-y.
C'est une femme qui a été dauphine de Miss Norvège.
Eva Jolie.
Eva Jolie,
elle peut dire Chabit en France, mais
non.
Mais elle a pas joué à Chabit. Non.
Alors,
Martine Aubry?
Non.
C'est une femme politique ou
oui,
pas?
Oui, on peut dire qu'elle est politique aussi, oui. Enfin,
ah, je sais laquelle, c'est celle qui est toute refaite. Elisabeth Guigou.
Non. C'est la fille de Giscard d'Estaing.
Non, c'est pas la fille de Giscard au plus.
Plutôt droite ou plutôt de gauche?
La fille de Bourville.
Oh, bah non plus!
Je vous fais faire chaque fois. Allez, Bourville, les matchs. C'est pour ça qu'il me garde.
Ah, qu'il est con!
Bon, pourquoi c'est la... Mais c'est la fille de quelqu'un?
C'est la fille, oui, forcément, c'est la fille de quelqu'un.
Oui, non, mais en fait, de quelqu'un qu'on
connaît. Remarquez, sa mère est pas.
Edith Cresson?
Sa mère, on la connaissait aussi, parce qu'elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a vécu vieille, sa mère aussi.
Oh, j'aimerais
Claude Chirac! Ah, bah non!
Non.
Mais elle est pas morte!
Non, bah non, oui, non.
C'est sur Arte qu'on verra ce soir cette femme jouer à Chabit dans un document noir et blanc, évidemment.
Ah, Pompidou, il a une fille?
Non.
Sa mère est morte, on te dit.
Une jeune femme à robe fleurie joue à Chabit avec de beaux marins. Folâtre, papillonne, allume. Cette image d'archive rare et incroyable traverse le document qu'on verra ce soir sur Arte.
Ça se passe après la guerre, quoi. Ça se passe dans les années 50.
Ça se passe même, à mon avis.
Pendant la guerre?
Ouais, ça se passe en fin des années 40, voilà.
Fin des années 40.
Oui, on décode, d'accord.
Moi, j'ai pas connu ça.
La fille de Churchill?
Non.
Ben non, français.
Qui jouait à Chabit fin des années 40?
C'est la marine nationale française.
Non, c'est pas la marine nationale.
Ah, la Royal Navy.
Et alors?
Ah, la princesse Elisabeth.
Non.
La reine Elisabeth.
La reine d'Angleterre. Wow. Bonne réponse de Stevie.
Ah, il y a un documentaire ce soir sur Arte d'ailleurs.
Ouais, c'est pas ça, d'ailleurs. C'est la question que je vous pose.
Il vient de le dire.
La reine d'Angleterre joue à Chabit.
Oui, monsieur.
Alors là, je comprends plus.
Oui, mais parce que c'est Chabait. C'est pas pareil.
Elle joue à Chabit. On la voit, elle était gourgandine. Elle avait 21 ans.
J'aime bien ce mot.
Qui a écrit gourgandine?
C'est dans Libération, Raphaël Garrigo, c'est Isabelle Robert.
Ça veut pas dire ça, gourgandine.
Cette gourgandine de 21 ans.
Non, gourgandine, ça veut dire une femme vénale, une gourgandine. Ça veut pas dire une folâtre.
Ah bah écoutez, en tout cas, elle joue à Chabit dans ce portrait, ce documentaire de Don Kent. On va revoir ces images pour la première fois.
J'ai hâte de voir ça, moi.
Ah, vous allez regarder.
Ah, j'enregistre même.
Sur Arte, ce soir.
Double erreur.
Don Kent.
Don Kent, c'est un réalisateur qui m'a filmé, moi.
Bah oui, alors.
Mais non, mais il n'a pas pu filmer la reine d'Angleterre quand elle avait 18 ans.
Mais je ne vous dis pas qu'il l'a filmé d'archi. Quand il avait 18 ans. C'est lui qui fait le documentaire d'archi. Ce soir.
Oh, d'accord.
C'est sympa ces images-là parce qu'on voit la reine comme on n'a pas l'habitude de la voir. Par exemple,
il y avait
une image où on voyait la reine en train de se prendre la tête avec sa mère, la reine mère. Mais je vous jure, c'est quelque chose.
Mais tu l'as vu.
C'est hallucinant, quoi.
Tu as vu le film?
Oui, non, dans plusieurs reportages consacrés à la vue de la reine. Moi, j'ai tout regardé sur YouTube, partout, je sais tout. Et c'est vrai que la voir se prendre la tête comme ça quand elles ont les diadèmes et en train de se battre, ou notamment en train de regarder leurs chevaux, parce qu'elles possèdent des chevaux, et se battent pour pas. La première qui va arriver avec ses jumelles, regarder l'arrivée. Enfin, c'est plein de petites images, c'est peut-être pas non plus.
C'est vous qui commentez le documentaire ce soir sur Arte?
Absolument pas, non.
Ah, je comprends pas pourquoi ils pensent jamais à toi.
Ah oui. C'est vous, Stéphane Bern. Hein
bah, il faut que je prenne un coup dans les carreaux, que je mûrisse, que j'apprenne encore plus. Après, je serai Stéphane Bern.
C'est pas un coup dans les carreaux qui peut te faire.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous êtes
un coup dans les carreaux, ça veut dire vieillir.
Un coup dans les carreaux, ça veut dire vieillir.
Vous en avez pris plus d'un, Claude. Faut appeler le vitrier. Hein.
Oh là là.
On se retrouve après les titres de 16h.
On va se gêner sur Europe 1.
15h30, 18h, Laurent Ruquier.
Claude Sarraute, Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou et Stevie Boulet sont avec vous 2 heures encore Seulement une demi-heure, Claude, parce qu'elle a l'impression qu'on est là depuis 3 heures déjà.
Ouais, je sais pas que je m'ennuie. Hein,
mais non, mais enfin non. Quand même. Soyez un peu plus agréable avec nous. On vous force pas à venir non plus, Claude. Hein.
Quoi? Oh. Mais comment vous avez pu dire que j'étais... J'ai applaudi à chaque fois que vous citez vos noms, que vous racontez vos conneries. Chaque fois qu'il y en a un qui ouvre sa gueule pour sentir une connerie, j'applaudis. Et tu trouves que je me comporte mal avec vous?
Bah oui, vous avez déjà envie de vous en tu aller. Sais... On a des auditeurs qui sont heureux, eux, que vous soyez là. Alors faites semblant au moins d'être heureuse d'être ici, vous comprenez?
Mais en quoi j'ai pas l'air heureuse? C'est
simplement... Bah vous râlez, vous êtes méchante. Vous...
Moi je suis méchante, avec qui j'étais méchante?
Avec tous les auditeurs. Michel, c'est plein déjà, moi.
Ah non, Michel, la dernière fois... Claude. Ne me dis pas ça. Ma petite Claude, non.
Non.
Ma grande Claude. Patron, c'est l'auditeur.
Non, ça fait ma petite mamie. Non,
mais non, mais tu n'es pas une mamie. Non, pas du tout.
Si, si,
ah,
je suis une mamie,
bon,
mais...
Il faut savoir...
Mais ça n'a rien à voir.
D'abord, dis-moi, on se ferait pas un peu chier bon. Et comment...
Heureusement, Léna et David sont là. Bonjour Léna, bonjour David.
Oui, bonjour.
Léna est à Aix-en-Provence, David à Renaison. Que faites-vous dans la vie, Léna?
Alors, je suis décoratrice d'intérieur.
Ah, j'adore ça.
Et sous la neige en ce moment.
Il neige là-bas à Aix-en-Provence?
Énormément, on doit être environ à 4-5 cm là.
Oh, wow.
C'est génial. Beau.
Léna, un petit message à faire passer à part ça?
Bah écoutez, je vous aime beaucoup Laurent.
Oh, c'est gentil.
Vous êtes mon préféré dans l'équipe.
Ah, moi aussi.
Je trouve que vous avez, c'est un mélange de classe, d'intelligence et vous avez toujours des très pertinent pour l'actualité.
Oh là là!
Malgré nos différents points de vue sur la politique, je pense,
et la sexualité.
Ouais. Ah non, on a les mêmes goûts sur la sexualité, Léna et moi.
Exactement. Et en fait, je me rends compte que je suis souvent d'accord avec vous.
Mais bah, tu peux l'emprunter, mais pas plus de 500 euros. Parce qu'après, il demande des reconnaissances de dette.
Hein. Ben, je suis ravi, Léna, ça me touche vraiment, vous savez. Puis ça, je veux dire, c'est pas que ça me fasse plaisir, c'est que ça emmerde tellement les autres.
Non, parce que je les aime beaucoup. Et vous voyez, j'y pensais tout à l'heure, je disais, depuis que Jean-Marie Bigard fait partie de votre équipe, j'ai appris à le connaître et c'était pas forcément ma tasse de thé il y a quelques temps.
Oh bah merci,
et là,
Léna.
je trouve qu'il est... Lui aussi, il est pertinent, très intelligent et je l'aime beaucoup.
Ah bah tout ça c'est
merci,
sympa
Léna,
alors. David à Renaison maintenant, bonjour David.
Bonjour tout le monde.
Vous allez avoir du mal à faire mieux,
oui,
David.
Oui, David. David, vas-y, hein, faut que tu lâches les chiens tout de suite. Hein.
Tu serais pas un petit peu un chef de meute, David, maintenant?
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, David?
Je suis paysagiste et j'encadre des personnes handicapées dans l'entretien des espaces verts.
Ça, c'est formidable. Vous êtes paysagiste et donc pour décorer chez les gens, vous mettez des vieux dans les jardins, c'est ça?
Non,
mais ce qui n'est pas gentil, c'est de les encadrer quand même.
J'ai pas compris.
Mais oui, parce que c'est bizarre, votre métier.
Oui.
Maintenant, paysagiste, il refait les jardins.
Eh ben, il refait les
fleurs. Tiens, je vais mettre un vieux là, il est un peu plié.
Voilà. Ouais. Il encadre des personnes âgées, il a dit.
Non.
Un seul être vous manque.
Mais non, il s'occupe des jardins.
Expliquez-nous, David.
Expliquez bien, David.
C'est des travailleurs handicapés.
Mais alors, c'est-à-dire qu'avec eux, vous allez faire les jardins des gens, c'est ça?
Voilà, l'entretien des espaces verts, voilà.
Bah, on a tout compris. C'est vrai qu'on a un match, un duel assez curieux, là, quand même. Hein. Mmh. Une décoratrice d'intérieur contre un paysagiste.
Un
Léna.
Décorateur d'extérieur.
Oui, exactement, tu me l'as retiré.
Ah bah, remarquez, on va pas vous faire aller très loin, Léna. Vous, David, vous êtes à Renaison. C'est où exactement, Renaison?
C'est à côté de Roanne, chez Trois Gros, vous connaissez, non?
Ah oui, je suis jamais allé, mais je connais.
Il en est question. Hein.
Alors, attention, parce que finalement, je vous fais pas voyager très très loin, et l'un et l'autre, c'est à Mougins que vous irez passer un week-end si vous gagnez le premier challenge. C'est pas mal Mougins quand même.
Ça, je connais très bien Mougins.
L'hôtel de Mougins, hôtel et préférence à quelques minutes de Cannes, aux portes du village médiéval, à côté des 10 plus prestigieux golfs de la Côte d'Azur. Vous irez voir sur hôtelpréférence.com cet endroit merveilleux qui vous accueillera. Voici la question, Léna et David. Prêts?
Prêt.
J'ai là une éducatrice domiciliée à Gignac qui a 53 ans et qui s'appelle Danielle.
On lui a proposé à la NPE de faire du striptease.
Excellente réponse.
Eh ben, dis donc, rapide.
Bon, mais c'est une boutade.
De Léna. Vous le saviez, David?
Pas du tout, non.
Alors écoutez,
j'ai bossé, mais
pas de regret. On a entendu ce matin ça sur Europe 1. C'est une information assez incroyable. Elle est à la recherche d'un emploi. Elle s'est donc inscrite à Pôle emploi. Et à Pôle emploi là-bas de cette région de l'Hérault, à Pôle emploi Hérault, on lui a proposé un poste de stripteaseuse seins nus, condition sine qua non, dans une boîte de nuit à Poussan. Je sais pas où c'est, ça Poussan.
Ah, c'est bien Poussan.
Il faut maîtriser les techniques classiques du topless. Salaire 12,99€ de l'heure plus les primes. Et Daniel, qui a 53 ans, qui était éducatrice domiciliée à Gignac, a dit, écoutez, je vais pas me mettre à poil pour gagner de l'argent. Elle a trouvé ça scandaleux que Pôle emploi lui propose ce job.
Parce qu'ils sont gourés, c'est des trucs d'ordinateur.
Ah non, le directeur de Pôle emploi assure que tout est normal.
Ah, le directeur, il avait juste envie de voir cette dame les seins à l'air, alors c'est ça, non?
Je sais pas, Pôle emploi, comment s'appelle, c'est pas le Pôle
Oui, c'est ça, le lap dance ou le...
Le Pôle dance ou le lap dance.
Avec la barre, là.
Le lap dance.
Le lap dance.
Bah voilà, on passe du Pôle emploi à lap dance.
Mais c'est plutôt flatteur, moi, pour cette dame, je trouve.
Exactement.
Alors, franchement, généralement, on nous demande d'aller nous rhabiller.
Et là, on lui demande d'aller déshabiller à Poussant.
C'est pas mal. Moi, je veux bien le job.
Moi, je paye ma femme de ménage 13 euros de l'heure et elle se met pas à poil du tout. Hein, donc, si en plus faut qu'elle travaille.
Mais est-ce qu'elle danse autour du balai?
Mais non. Et même, honnêtement, je préfère pas. Tu vois,
c'est vrai que c'est pas...
Oh, c'est pas gentil, dis donc.
C'est vrai que c'est pas très cher payé, 12,99€ de l'heure.
C'est que dalle, non.
Mais il y a des primes.
Ça fait 6 euros le nichon, c'est pas énorme. Hein.
Il y a des primes. Peut-être que les clients mettent des petits billets, vous savez, dans le soutien-gorge.
Normalement, c'est dans le string.
Ou dans le string.
Mais ça veut dire qu'elle enlève que le haut, alors. Peut-être si tu doubles, t'enlèves le bas.
Maîtriser les techniques classiques du... Topless.
Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'une boîte de nuit demande au Pôle emploi de lui trouver quelqu'un.
Oui,
c'est surtout ça.
Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller se dessaper à Poussin en même temps. Non, donc, ils ont du mal à trouver.
Cette histoire est non seulement choquante, mais en plus invraisemblable.
Ah oui,
si c'est vrai, c'est très choquant. On n'a pas à dire à quelqu'un, venez montrer votre...
Il y a quelqu'un de 53 ans.
Moi, je veux bien qu'on appelle... Oh, on n'a pas le téléphone de Pôle emploi à Poussant. On pourrait appeler le Pôle emploi à Poussant.
Elle a 53 ans. Et Jeanne Fonda, elle a combien?
74.
Oui. 74, vous la voyez sur tous les magazines.
Oui, mais elle l'a voulu.
En train de dire, je jouis comme jamais.
Et puis la dame de 53 ans n'a peut-être pas le physique de Jeanne Fonda, non?
Il y en a 74, ben, c'est normal.
Non, mais enfin, Claude Sarraute, les gens qui payent pour aller voir un striptease... Effectivement, paye rarement pour aller voir des quinquas se déshabiller.
Oh, il y en a qui pourraient être surpris de voir leur femme.
Comment tu crois que ma mère a payé mes études?
Léna, vous partez pour Mougins en tout cas.
Ah, je suis ravie, je remercie beaucoup Laurent.
Avec qui partez-vous?
Je pars avec mon mari, Patrick.
Eh bien, vous c'est irez manger au Feu Follet de Mougins, c'est un restaurant qui m'appartenait, que j'ai revendu.
Ah oui, c'est vrai, pourquoi vous n'avez pas gardé votre restaurant?
Parce qu'il ne faut pas acheter de restaurant si tu n'es pas dedans.
Voilà.
Parce que tu fais le même chiffre d'affaires que l'autre, avant qui était toujours dedans, mais tu gagnes 200 000 de moins. Tu vois, alors au bout de 3 ans, que tu as perdu 600 000, eh ben, tu le revends. Voilà. Et après, tu n'achètes plus de restaurant.
Mais
c'est
pourquoi
une règle.
Je n'ai pas compris pourquoi vous perdez l'argent. Alors.
Bah parce qu'il faut être dedans.
Faut être
dans son restaurant.
Il faut prendre la fraîche.
Tous mes amis m'ont dit, mais tu es un fou furieux. Quoi. C'est-à-dire que ce restaurant faisait toujours le même nombre de couverts parce qu'il est dans le vieux village, il est formidable, il y a plein d'étrangers, tu fais deux services. Les Anglais mangent à 18h, tu refais un service à 21h. C'est formidable, c'est incroyable une affaire comme ça. Mais si tu ne comptes pas dans l'assiette, les grains de sel et les grains de poivre, m'a-t-on dit, si les épinards ils montent de 50 centimes d'euros, ou t'en mets moins ou tu mets un autre légume. Si ton carré d'agneau, tu le fais avec 6 côtes d'agneau, c'est beau, mais tu gagnes plus d'argent. Et je te parle pas de ce que tu peux éventuellement.
Mais Gérard Miller, son snack, il l'a gardé en Ardèche pour l'instant.
Ouais, mais il faut voir comment sont.
Mais il y est en revanche. C'est pour ça qu'on l'entend plus ici. Ouais.
Non, mais c'est...
Bravo en tout cas, Léna. Désolé, David. Le président Pinto da Costa a appelé son chien d'une telle façon que la presse en parle aujourd'hui. Comment a-t-il appelé un de ses deux chiens, le président Pinto da Costa?
Obama?
Non.
Sarkozy?
Non. Alors, est-ce que vous savez d'abord qui est le président Pinto da Costa?
Justement,
il est président de quoi?
C'est à vous trouver, évidemment.
De l'Uruguay?
Non, le président Pinto da Costa a appelé un de ses deux chiens comment?
Il est pas
Franco.
Non.
On va trouver le pays. C'est pas le.
C'est pas le Chili.
Non.
C'est pas le Brésil.
Non. Mais c'est pas un président de la République.
Non, il est pas propriétaire des croisières Costa.
Non.
Leur appeler Concordia.
Non. Appeler son chien Concordia, ça serait.
Ça fait prestige pour un chien.
Concordia, remonte à bord, remonte à bord. Le président Pinto da Costa. On en parle partout dans la presse aujourd'hui.
Pinto da Costa.
Sauf que c'est le Parisien qui nous précise qu'il a appelé un de ses deux chiens. Comment l'a-t-il appelé, un de ses deux chiens?
Alors, c'est un président. Il est président d'une entreprise?
Oui.
Une entreprise.
D'un club de football.
D'un club de foot. On avance. Donc bien.
Il a appelé un joueur de foot.
Il a appelé Pelé.
Alors, il a effectivement donné le nom d'un joueur de foot à un de ses chiens.
Zidane.
Mais pas n'importe lequel, parce que peut-être si vous trouvez. Qui,
c'est la race
Messi.
Du chien qui
Maradona.
Pardon.
Messi.
Mais non, Claude.
Est-ce que c'est le prénom d'un joueur qui joue en équipe de France?
Non.
Mais c'est un joueur mondialement connu.
Ah, c'est un joueur mondialement connu, en tout cas chez nous en France.
Et qui a bonne réputation.
Sauf que là, il repart jouer dans un autre club.
Pires.
Non.
Il n'a jamais joué dans son pays natal.
Ronaldo.
Qui ça? Il n'a jamais joué dans son pays natal.
Je crois que c'est Messi.
Un Français.
Beckham, Ronaldo, Ronaldinho.
Non.
Ribéry.
Peut-être faudrait trouver de quel club déjà, monsieur Pinto da Costa et
un club allemand?
Un club allemand, non.
Espagnol?
Espagnol, non.
Anglais, alors?
Portugais.
C'est portugais. On peut même vous dire, hein, c'est le président du FC Porto.
Ah, d'accord.
Ah, si Titoff avait été là, s'il était arrivé, alors.
Ah, il nous aurait répondu. Alors.
Non, mais quel est le meilleur joueur portugais, bon sang
Bah, je sais pas, moi. Je connais rien.
Il a un nom portugais?
Ah bah le joueur, oui. Et le chien aussi, évidemment.
Ah, mais c'est ça. Donc c'est quelqu'un d'origine portugaise.
Oui. Alors il l'a appelé Porto.
Non. Alors c'est facile, c'est dans tous les journaux.
Mais
est-ce que ça finit par un O?
Oui.
Ah, alors, il n'y en a pas des millions. Il y a Ronaldo, il y a Ronaldinho.
Non, ils ne sont pas portugais.
Mais non, il n'est pas portugais. Là, il est parti jouer au Portugal, mais il n'est pas portugais, le joueur.
Ah oui, mais vous me dites qu'il avait un nom portugais.
Oui, il n'y a pas un nom portugais, il a un nom...
Il a un nom...
Oui, qui pourrait être aussi portugais, oui,
ouais,
voilà.
Ouais, c'est pas français, quoi.
Non, mais je veux dire par là, latin, quoi, voilà.
Brésilien, quoi.
À Pento?
Non, mais il jouait en France. C'est un transfert.
Anelka?
Mais non. Vous qui regardez le foot tous les dimanches soirs.
Tout à fait en haut, Anelka. Tout à fait. C'est fini en haut. Anelka. Non, Anelko.
Pierre, enfin,
qu'est-ce qu'on veut dire comme
loco?
Vous regardez quand même. C'est tout près, ça. Attention.
Loco.
Poteau.
Poteau, donc.
But.
Colo.
Non. Il jouait à Marseille, enfin. Stevie.
Mince, mais je regarde pas
c'est
à Marseille.
Tout près, c'est tout
il est
près
tatoué,
loco.
Il est tatoué partout.
Mais oui, bien sûr.
Compte, c'est un noir.
Mais non, c'est pas
brésilien.
Un noir.
Mais on connaît que lui. Les auditeurs vont rire de nous parce qu'on ne connaît que lui.
Et d'ailleurs, les Marseillais l'avaient acheté plus de 20 millions d'euros. Ils leur vendent que 2 millions. C'est vous dire s'ils ont fait une affaire. Non, mais j'ai honte pour vous. Hein.
Non, mais nous aussi.
Parce
hein,
que
non.
Vous faites semblant de vous intéresser au foot, Pierre Benichou. Et en fait, vous n'y connaissez que dalle.
Ah, mais oui.
Dites-moi, c'est à moi que
tu
parles. Tolo. Oui, c'est à vous que je parle, Pierre Benichou.
Togo.
Pardon.
Togo.
Et vous, c'est pareil. Pourquoi vous regardez les matchs uniquement pour les cannes des joueurs?
Bah enfin vous avez compris, oui. Si vous croyez que je m'intéresse à leur jeu, non, je m'intéresse à eux. Mais...
Alors c'est en deux syllabes alors.
Oui, c'est en deux syllabes.
Et
alors,
c'est tout près de loco.
Alors écoutez, je vais vous aider.
Loco.
Je vais le faire en charade.
Ah
alors,
j'adore.
Alors, vous aimez bien les...
Ah j'adore.
Alors, j'adore le charade. Moi.
J'adore.
Mon premier va avec l'agneau d'après La Fontaine.
Le loup.
Mon deuxième n'est pas froid.
Lucho.
Lucho.
Loufroico.
Lucho. Lucho, bonne réponse. Lucho.
Jamais entendu ce nom.
Heureusement qu'on a...
Moi non plus.
Jamais entendu ce nom-là. Lucho, c'est quand même le joueur. C'est-à-dire que vous avez... Non mais enfin, franchement, je rêve alors.
D'abord, comment Lucho, ça va avec l'agneau?
Elle a un wagon de retard.
Le loup et l'agneau.
Le loup et l'agneau. Mon premier va avec l'agneau. Loup. Mon deuxième n'est pas froid. Chaud. Lucho. Vous voyez, c'est ça les charades, Claude Sarraute. Si en plus, il faut que j'explique les charades.
Qu'elle connaît surtout.
Et heureusement qu'on a trouvé les charades parce qu'on aurait vraiment l'air con.
Ce qu'elle connaît surtout, c'est le loup et l'agneau. Une fable de Préfontaine.
Non, mais c'est vrai que Lucho, quand même, c'est le joueur argentin qui n'a pas vraiment aussi bien réussi que celui qui est à Lyon, Lisandro. Alors, moi, je ne fais pas semblant. Moi, je m'intéresse vraiment au football. Vous avez deux joueurs qui sont arrivés en même temps en France. Vous avez Lisandro qui est arrivé à l'Olympique lyonnais et Lucho qui est arrivé à l'OM. Et Lucho n'a pas réussi autant à convaincre que Lisandro. Voilà pourquoi, finalement, pendant le mercato, au cours de la. Ça fait deux saisons maintenant qu'il est à Marseille, eh ben, l'OM le lâche et il retourne Lucho dans un des clubs qu'il a joué, où il a joué précédemment, Porto, le FC Porto. Et le président, c'est assez incroyable, le président du FC Porto est ravi de le retrouver parce que c'est resté une idole là-bas à Porto. En disgrâce du côté du Vieux-Port, Lucho va revivre dans un club où il est considéré comme une vraie star. La preuve, le président Pinto da Costa l'adore à tel point qu'il a appelé un de ses deux chiens Lucho. Lizzy Grant est dans toute la presse aujourd'hui. On nous parle d'ailleurs beaucoup de ses lèvres. Mais qui est Lizzy Grant ?
Des lèvres du haut ou des lèvres du bas ?
Des lèvres du haut, Jean-Marie.
Oh. Non, mais c'est pour savoir.
Non.
Ah, c'est pas. Ah, bah non, c'est un dessin. Je pensais aux lèvres des Rolling Stones.
Ah, pas du tout. Non. Lizzy Grant, elle a 25 ans. On la voit dans toute la presse aujourd'hui.
Elle fait une pub ?
Non.
Non, c'est la chanteuse, là ?
C'est la chanteuse.
Oh là 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 là, c'est la chanteuse.
Ça commence bien, vous avez la première syllabe
voilà,
déjà.
C'est la chanteuse qui a un truc bizarre avec sa bouche.
Oui, qui fait un carton sur le net là qu'on
exactement.
A découvert sur le net.
Bah, dites donc on progresse.
Hein. Ah oui, c'est bien, elle est jolie, très très belle.
Non, parce que si vous y connaissez rien en football et rien en variété.
Non, mais si j'y connais en variété, mais c'est que tout le monde se demande si c'est vraiment une chanteuse ou pas. Si
exactement.
C'est, et alors voilà, donc.
Elle est américaine, elle a 25 ans. Son premier nom, parce qu'elle a commencé à faire carrière sous le nom de Lizzy Grant, et puis finalement elle a changé, elle s'appelle maintenant et son album sort aujourd'hui. Elle s'appelle.
Voilà.
Stevie.
C'est terrible.
C'est la nouvelle Lady Gaga. C'est la nouvelle.
C'est quoi le rapport avec les lèvres?
Parce qu'elle a une grosse bouche.
On se demande si elle s'est fait botoxer ou pas les lèvres.
On se demande si elle c'est une vraie chanteuse.
Voilà. Lana Del Rey n'est pas convaincante.
Lana Del Rey.
Ah, bah j'ai dit son nom. Remarquez, il valait mieux, hein, parce qu'autrement, on y était encore demain. Bah, je vous propose de l'écouter. Tiens, Lana Del Rey sur Europe 1. Quels points communs ont Brigitte Kuster, Marie-Claire Carrère-G, Géraldine Poirot-Gauvin, et on peut ajouter un quatrième nom à ce trio, mais lequel ?
Une récompense ?
Non. Brigitte Kuster, Marie-Claire Carrère-G, Géraldine Poirot-Gauvin. Je vous demande de compléter ces trois noms par un quatrième. Elles ont toutes un point commun.
Elles sont écrivaines ?
Non, du tout.
C'est une quatrième femme aussi ?
Oui, quatrième femme. Vous avez remarqué que c'était trois femmes déjà.
Elles ont fait quelque chose. Elles ont traversé l'Atlantique en pédalo.
Pas du tout.
C'est les quatre filles du docteur Marsh ?
Non.
La femme Poirot, elle a fait quoi de spécial ?
Comment ça, la femme Poirot ? Ah, Géraldine Poirot-Gauvin.
Poirot, elle est dans l'agriculture.
Non. Marie-Claire Carrère-G, Brigitte Kuster, Géraldine Poirot-Gauvin et la quatrième.
Et elles font toutes une connerie, quoi. Elles font toutes un truc.
Non.
Elles ont toutes fait la même chose ?
Elles vont faire toutes la même chose.
En même temps.
Oui.
Elles vont battre un record.
Elles vont
ouvrir un restaurant.
Du tout. Elles vont faire un relais quatre fois quelque chose.
Non, elles sont pas sportives du tout.
Elles sont en politique.
Elles sont en politique.
Ah. Est-ce qu'elles sont, je sais pas moi, dire assistantes d'un homme politique Est-ce qu'elles sont maires de communes?
Alors certaines sont maires, certaines sont députées.
Est-ce qu'elles veulent pas donner leur signature pour Marine Le Pen?
Non.
Sinon c'est en rapport avec Eva Joly?
Non. Il vous ment. Évidemment la quatrième est beaucoup plus connue. Voilà pourquoi j'ai pas donné son nom.
Philippe Etty?
Non.
Ou quelque chose comme ça.
Brigitte Kuster, Marie-Claire Carrère-G, Géraldine Poirot-Gauvin sont dans le même cas que
Martine Aubry.
Non.
On cherche une maire ou une députée, on est bien d'accord.
Oui.
Il n'y en a pas des millions.
Elisabeth Guigou, Morano.
Maire, en tout cas.
Ou Rachida Dati, elles sont toutes les trois candidates à la mairie du 7e.
Non, mais.
Elles sont toutes les.
Mais en tout cas, vous avez c'est le quatrième
Rachida
nom.
Rachida Dati.
Le quatrième nom, c'est Rachida Dati. Alors
qu'elles ont toutes été fiancées avec Vincent Lindon.
Non. Alors, quel est le point commun
entre Rachida Dati.
Alors, Pierre, politique, là, quand même.
Allez, Pierre.
Ça par rapport à la mairie du 7e ou pas?
Non, bah, pour Rachida, oui, mais pas pour les autres.
C'est une histoire de signature.
Ah, bah, elles sont tous délogées par un homme UMP plutôt qu'une femme.
Excellente réponse de Stevie. Bravo, Stevie.
Parce que Rachida Dati, c'est Fillon. Et puis pour les...
Voilà, quatre candidates qui se présenteront tout de même contre l'UMP alors qu'elles faisaient partie de l'UMP. Elles seront dissidentes parce qu'on leur a pris leur place et on met un homme à leur place.
Et Rachida Dati va le faire, ça, vous êtes sûr?
Ah, bah, elle le dit, en tout cas, qu'elle le fera, effectivement, dans le 7e. Brigitte Kuster, elle, c'est dans le 17e. Géraldine Poirot-Gauvin, c'est dans le 15e. Et Marie-Claire Carrère-Gé, c'est dans le 14e. Toutes, effectivement, sont délogées par un homme d'après, effectivement, les nouvelles attributions.
Et ça, c'est pas bien, ça, pour l'UMP.
Ah, c'est pas bien?
Bah, non, ça renvoie pas une bonne image, non. Bah, et puis, ça fait pas. Et puis, je sais pas, un peu de galanterie. Monsieur Fillon, je sais bien qu'il aimerait être à la mairie de Paris, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il a toujours été élu dans mon département, dans la Sarthe.
Ah.
Donc, nous abandonner pour aller à Paris, oui, pourquoi
c'est pas,
mais
bien.
Pour tous les gens qui ont voté depuis des décennies bien. Pour M. Fillon, c'est pas très sympathique pour les Sartois, en tout cas.
Oh, bah, qu'est-ce qu'il te dit qu'il va prendre la place de la Noé?
Bah, je sais pas, mais toujours est-il que la Sarthe, si, enfin,
on ne dit pas la Sarthe, on dit Simone de Beauvoir.
Oh non, Pierre. Enfin, je l'ai vu, elle s'énervait, Rachida Dati, là, sur Canal Plus l'autre soir. Elle a l'air remontée. Hein.
Elle a l'air très remontée.
Elle va lui en faire voir à François Fillon.
Il va recevoir un coup de talon dans l'œil.
Vous croyez qu'elle va pas aller au bout, c'est ce que vous
je
dites?
Je sais pas, non, pas du tout. Je croyais qu'on lui cherchait encore une circonscription.
Ah bah non.
Mais non, elle veut pas, de toute façon, elle veut être à Paris.
Elle veut pas? T'es pas sûr qu'elle veut pas?
Non, elle
ça
veut pas.
Ça dépend de quel y trouve.
Est-ce que tu sais, Pierre Bénichoux, qu'à propos de son histoire d'amour avec, je ne sais plus comment c'est, ce garçon, Vincent Lindon, on te cite.
Ah bon?
Ben oui,
c'est bizarre.
Parce qu'ils expliquent qui c'est Vincent Lindon pour arriver à se taper Madame Dati.
Claude, d'abord, c'est pas vrai, c'est des paparazzi qui racontent ça, c'est Voici. Il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans Voici.
Ben, en tout cas.
Voilà. Moi, je crois que je l'aurais su. Si ça avait été vrai, je crois que je l'aurais su. Alors, je n'ai jamais rien su de cela.
Oh.
Quant à Madame Rachida Dati, que je trouve ravissante, j'ai jamais eu le plaisir de lui être présenté. Je la connais pas. Quant à savoir si Vincent a eu l'histoire avec elle, je crois que non, puisqu'il le dit, et que je pense que la rumeur serait arrivée à moi avant les paparazzi.
Mais c'est incroyable.
C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Mais bah, tu dis n'importe quoi, des conneries.
Tu sais que j'ai pas eu peur de Cerdan, j'ai pas peur de toi.
Eh ben, tu vas voir.
Tu vois pas que je casse la gueule à mon temps. Tu te rends compte de cet écho incroyable.
J'ai fait.
Il craque. Tue Claude Sarraute. D'un mouvement
en pleine émission. Non, mais vraiment, c'est hallucinant. Mais tu te rends compte? Mais il est cité dans Voici.
Oh, la référence.
Non, mais je veux dire, elle est d'être au stade de jalousie. On te dit, il est tombé, il s'est cassé la jambe, moi aussi.
Le pire, ce sera quand il est mort.
Michel, vous avez déjà été paparazzé, vous?
Oh, il y a très longtemps.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui, racontez.
Oh, ben, j'avais un fiancé, et puis voilà, j'étais.
Ah oui. Mais c'était vraiment votre fiancé ou pas?
Oui, c'était vraiment mon fiancé. Oui. Mais l'article était très, très gentil. Et mon fiancé était très 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 beau, donc j'étais très très contente.
Donc vous n'avez pas porté plainte?
Non.
Oh, t'as toujours eu des beaux maris, toi. Enfin,
oui, moi j'ai toujours eu des beaux
maris. Tant qu'à faire, il faut choisir.
Pourquoi je prendrais un tromblon?
Qui a inauguré sa statue au musée Grévin? C'est assez étonnant, ça s'est fait assez discrètement.
Nicolas Cage.
Oh, bravo, Nicolas Cage. Bonne réponse de Michel Bernier. Je suis surpris que Nicolas Cage vienne au musée Grévin.
Ah bah, il se fait chier dans la vie en ce moment.
Je pense qu'il est un peu à la ramasse.
Il n'a pas le moral.
Ah ouais,
il a des grosses dettes. Il a été obligé de vendre plein de choses.
Bah, vous lisez Oups, vous aussi.
Il a fait des dizaines de films énormes. Il a dû gagner.
Mais quand t'as pas payé des années d'impôts.
Les impôts, c'est dur. Hein.
Ah, bah dis.
Et les impôts, les paparazzi, nous les vedettes, c'est ce qui nous tue.
Non, et puis il a surtout fait que des nappés.
Vous voyez me dire de qui vous parlez?
Nicolas
Cage, Claude.
Oui, c'est un ami de Rudolf Valentino, au moment.
Mais son nom, c'est pas Cage, c'est Cage.
Oui, Nicolas Cage.
Nicolas.
Nicolas Cage.
Oui, on dit, pas Nicolas, on dit Nicolas.
Nicolas Cage.
Bon, bah Nicolas Cage.
Vous voyez qui c'est, Claude, vous connaissez quand même en plus.
Je la connais très bien, Nicolas Cage, moi, elle est très très belle. La petite Ascage, c'est la mieux des trois filles. T'as Martine Ascage, Christine Ascage et Nicolas Cage.
J'ai visité pour la première fois le musée Grévin à l'âge de 19 ans, dit-il. J'avais été très impressionné et j'ai rêvé d'y être un jour menteur. Parce que franchement, les Américains qui visitent le Grévin, ils connaissent personne. Un Américain. J'imagine les Américains au Grévin. Oh, regarde la statue des To Be Free.
Tiens, les vampes.
Non, mais c'est quand même n'importe quoi.
Non, non, mais vous êtes bête de dire ça.
Ah bon, ah bon.
Parce que les To Be Free et les vampes, c'est récent. Mais il y a tout les, toute la galerie de portraits, tous les présidents américains, les Chinois, les machins. T'as des tas de choses qui sont.
T'as pas beaucoup de Chinois au musée Grévin.
Si, t'as Mao. T'as le président Mao.
Ouais,
t'as l'empereur Tanguin.
L'empereur comment ?
Tanguin avec
Tanguin.
Les filles de Johnny Hallyday.
Ah oh, ben bien sûr, ils sont pas chinoises. Non, t'as des tas de Chinois là-bas.
Pour simplement attirer l'attention, mais je ne sais pas ce qu'il ne ferait pas. Hein, tu cracherais en l'air pour que ça te retombe dans la bouche pour faire un ton
intérêt. Oh, ça va être bon, ça.
Bon, allez, on y retrouve le village, vraiment. Alors là, j'ai l'impression de faire Jeanne Sourza et Raymond Souplex sur le banc. Pour les plus vieux auditeurs, vous comprendrez. Pour les plus jeunes, allez voir sur Internet. Je vais vous donner le nom d'un jeune avocat. Il s'appelle David Metaxas. Et on saura aujourd'hui.
Métastase ?
Non, Metaxas. Non, écoutez. David Metaxas, cet avocat, eh bien, on saura aujourd'hui s'il va réussir à faire gagner celle qu'il doit défendre, qui s'appelle Soazig Parasol. Mais que réclame cette jeune femme,
Soazig Parasol ? Elle réclame à la SNCF une indemnité parce que son train. N'était pas comme il faut, oui. Et qu'elle a perdu son emploi à cause de ça.
Non, c'est un monsieur qui a fait, à qui c'est arrivé.
Non, c'est Pierre Benichou qui a raison, c'est une jeune femme. Voilà. Elle s'appelle Soazig Parasol.
Prends toujours ça dans les dents.
Qui t'en fous, c'est pas les miennes.
Dans les dents qui te restent.
bien sûr.
C'est la guerre.
Ah, il est fort, le bon Pedro.
Vraiment dégoûtant, mes pauvres petites dents qui tiennent si mal que je. Oh, elles me tombent dans la bouche, il voudrait. Oh non, écoute, bah.
Je t'avais racheté de la glu.
En tout cas, cette jeune femme qui s'appelle Soazig Parasol, effectivement, est arrivée en retard régulièrement à cause de son TER. À chaque fois, plus d'une heure de retard. Son employeur trouvait qu'elle travaillait bien, mais il en avait marre. Il lui a demandé quand même de venir habiter à Lyon. Ça aurait réglé le problème puisqu'elle n'habitait pas à Lyon et qu'elle venait, elle, de Ambérieu. Ça existe, ça, Ambérieu?
Oui, c'est à côté de Lyon.
Elle n'a jamais eu de relation avec Titeuf?
Ambérieu en Bugey, c'est voilà. Et dans la, et elle prenait tous les jours le train pour se rendre sur son lieu de travail, mais le TER accumulait les retards. À la fin de sa période d'essai, eh ben on lui a dit, même si elle a donné entièrement satisfaction, on ne peut pas vous garder. Elle a retrouvé un emploi et depuis.
Mais
quand même.
Là,
j'ai dit un truc très con, mais pourquoi elle ne prend pas le TER d'avant?
Si la SNCF annonce un train à 8h59, le train se doit d'être là à 8h59 bien pour sûr. Arriver à l'heure. Oui. C'est pas elle de prévoir les retards
oui,
de la
mais,
SNCF.
Mais maintenant, quand tu risques de perdre ton emploi, une fois que tu as constaté pendant 2 mois que ce train avait une heure de retard, bah, tu prends celui d'avant, faut pas déconner.
Oui, vrai,
non, parce que voilà. T'es déjà licencié, Jean-Marie, c'est
mais,
trop tard.
Mais tu veux juste mais porter plainte contre la SNCF pour toucher de l'argent.
Ce n'est pas
ça.
De ça qu'il s'agit.
Ah, Pierre.
C'est
ah.
Pas un train qui est en retard. C'est qu'avec la nouvelle.
Les nouveaux horaires.
Les nouveaux horaires des trains, elle n'a plus qu'un
pas
train.
Pas du tout, ça date d'avant, ça.
Et voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Ça date d'avant pour que ce soit jugé aujourd'hui. Vous imaginez bien que la justice n'est pas aussi rapide pour que ça date des nouveaux horaires.
C'est la justice TGV.
Il faudrait un truc comme pour les enfants quoi, à l'école, c'est un tampon de la SNCF qui dit exact. On était encore
mais
en
retard. Mais ils le font.
Ils le font.
Ah, ils le font à la SNCF. Croyez-moi, si votre train a du retard, vous allez à l'arrivée. Le problème, c'est que vous avez encore plus de retard parce qu'il faut aller chercher le tampon. Enfin, mais ils le font. Ils le font. Vous avez une heure d'attente. Non, mais c'est vrai, c'est pas idiot ce que je vous dis, c'est la vérité, parce que forcément, tout le monde va chercher son tampon. Donc, non seulement vous êtes en retard, mais vous allez avoir encore plus, en plus de retard pour avoir le tampon de retard.
En fait, il faut bosser la SNCF pour être tranquille, quoi.
Mais par exemple, dans notre métier, Michel.
Tu m'as fait mal, là, tu viens de me
mais
frapper.
Mais non, 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 je t'ai juste enfoncé le stylo de 2 cm dans l'épaule, c'est pas méchant. Tu sais très bien que nous, par exemple, si on joue à Marseille ou à Montpellier ou à Bordeaux, on ne prend jamais, c'est une règle dans le métier, on ne prend jamais le dernier avion.
Attends, Jean-Marie, quelqu'un qui habite un endroit où c'est pas facile, t'as pas des trains tout le temps.
C'est
non
pas des saltimbanques qui voyagent comme ça, c'est des mamans qui doivent amener leur enfant à 8h20 devant l'école et qui ne peuvent prendre le train qu'à partir de 9h20. C'est celle-là donc, dont il faut penser. Tu
merci Jean-Luc dire, Mélenchon.
Voilà. Ce sont des mamans.
Cœur de pirate, c'est la jeune québécoise qui est de retour chez nous. En tournée en mars, elle passera le 19 mars au Casino de Paris. Écoutons Golden Baby, un dernier extrait de son album Blonde, Cœur de pirate.
Europe 1, on va se gêner.
Do-ré-mi facile.
Do-ré-mi facile. Liado.
À vos papiers, à vos stylos, voici Delgado. Et Serge, chose promise, chose due, vous êtes intéressé à la fameuse chanson « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel, voilà, reprise par Shakira. Et à nous de retrouver tous ceux qui ont interprété cette chanson.
Oh, pas tous ceux, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Hein. Vous les avez comptés, je crois, l'autre fois. Il y en a au moins 100, ne serait-ce qu'en Amérique latine.
Non, ça va être long, l'émission.
Vous en avez pris 10, c'est déjà pas
mal. J'ai fait une petite sélection d'artistes dont les noms évoquent au moins quelque chose parmi les chroniqueurs.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez... parce que je l'ai écouté, hein, votre quiz. Moi, déjà, j'ai les réponses en plus. C'est assez à la fois facile et difficile.
C'est ça. J'ai fait le grand écart entre le plutôt facile et le plutôt très difficile.
C'est-à-dire que même les faciles sont parfois difficiles à identifier.
Oh. Ah,
et
oui,
les difficiles sont parfois faciles à trouver. Voilà.
Ça, c'est exactement. Alors là, mon chéri, Delgado.
Serge Liado, il s'appelle Serge Liado.
Serge Liado.
Mais je l'aime, on oublie ça, on s'aime.
D'accord.
Alors, si tu as pris ça à Laurent, quand il fait, tu sais, l'invité surprise,
oui,
il nous met des indices plus imbitables les uns que les autres.
Oui. Coluche, il chantait ça, c'est assez vulgaire, mais il chantait « Je l'aide à vomir, je l'aide à vomir ».
Oh, c'est drôle.
Il était drôle, Coluche.
Ouais,
c'est drôle, je l'aide à vomir plutôt que je l'aime à mourir.
Bah oui, vachement, comme ça, alors.
Non, si vous ne m'aimez pas, moi je m'en vais. J'en ai marre,
non, restez pire.
Il n'y a pas Coluche.
J'ai marre, l'aimer.
Il n'y a pas Coluche, mais il y a une parodie. Vous la connaissez, vous, « Je l'aime à mourir », Pierre ?
« Je l'aime à mourir ». Tout ce que j'ai écrit à l'encre de tes yeux, c'est ça, non ?
Ah non, ça c'est une autre encore, l'encre de tes yeux,
non,
qui existe aussi en version latine d'ailleurs, l'encre de tes yeux.
Il n'y avait pas un truc qu'on disait, elle a du plomb, elle a du zinc et surtout elle a du fer.
C'est quoi ça ?
Toutes les guerres.
Elle a du fer, toutes les guerres. Ah oui, très bien, joli. 10 chanteurs internationaux français à retrouver, à identifier, les voici.
Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Siempre mirando, siempre al reloj, de nadie por ti no quiera tu amor, como si nada la quiera morir.
Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa.
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a que ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir.
It isn't fair, you know, why should I care? There are a million just like me.
Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
Il a gommé les chiffres des horloges du quartier. Il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire.
Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire.
Je l'aime à courir au butin. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si moche aujourd'hui.
Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour.
C'est du bon travail, Serge, parce qu'il y a des vraies pépites là-dedans.
Ah ouais, il y a des jolies choses.
Alors attention.
Alors, Gypsy King.
Il y a les Gypsy Kings, oui, bravo, oui. C'est le deuxième.
Et Shakira, c'est le troisième.
Shakira, c'est la troisième, oui, bravo. Il n'y a
pas Garou, non?
Non, il n'y a pas Garou.
Elton John.
Elton John, non, oui.
Carole Frédéric.
Bravo, Carole Frédéric, ça fallait la trouver.
Oh. Est-ce qu'il y a Rulio? Est-ce qu'il y a Rulio?
Il n'y a pas Rulio.
Nathalie Cardone.
Non.
Rock voisine.
Rock voisine, oui.
Dave.
Dave, oui, facile.
Jean-Marie.
Jean-Marie, Jean-Marie.
Non, c'est pas Jean-Marie.
On a la même voix, oui.
Ah, putain,
Patrick Sébastien.
Il y a Patrick Sébastien, ça oui.
Voilà, après,
Ramazzotti.
Non, il vous en manque trois. Ah bah, il... Et le premier, alors? Le premier, écoutez bien le premier. C'est Francis Cabrel lui-même.
Ah bon? Putain, on ne reconnaît pas du tout sa voix.
Là, c'est les Gypsy Kings.
Oui.
Los Reyes. Shakira, c'est le gros succès du moment. Bravo de vous être souvenu de Carole Frédéric.
C'était la dame aux cheveux bleus
avec Goldman. Rock voisine, bravo, vous avez bien reconnu ça. Il faut dire qu'il chante toujours pareil. Dave, alors là on peut pas le louper. C'est le suivant que vous n'aviez pas. Vous avez pensé à Jean-Marie? Écoutez qui c'est. C'est Kad Merad.
Ben, vous avez la même voix avec Kad.
Ouais, tu pourras le doubler.
Et ça, c'est Patrick Fiori. Patrick Sébastien, c'est sa célèbre parodie de l'époque, Je l'aime à courir. Et le dernier, alors le dernier, on l'a tellement pas entendu depuis longtemps, le dernier.
Dario Moreno.
Toutes les guerres de la vie et l'amour.
C'est Jairo. Vous vous souvenez de Jairo?
Ah, oui, ah bah dis donc.
Alors là,
je sais même pas qui c'est.
Vous savez pas qui c'est Jairo?
Ah non.
Oh là là.
Il était au moins aussi beau que
c'est un beau mec.
Ah ouais.
Alors racontez.
Bon, enfin, c'était il y a 40 ans. Hein. Vous excitez pas
mec,
non plus.
Quoi, hein. Il était brésilien, c'est ça?
Ah, oui, il est argentin.
Il a beaucoup changé maintenant.
C'est vrai.
C'est Jaira maintenant.
Ah, ah, ouais.
Il s'est argenté aussi les cheveux.
Il disait oui, d'accord. Bah oui, mais bon.
Comment ça s'appelait ça? Son célèbre succès, Les Portes du Ciel ou quelque chose comme ça, non?
Parce qu'il chante en français.
Serge Liado.
Je me souviens pas. Oui, moi je l'ai plus. Écouter en espagnol, il a chanté notamment Duerme, duerme negrito.
Tu vas en el campo, duerme negrito.
Exactement. Moi, je le connais plutôt pour ça.
Pierre, c'est le nouveau Jairo, Pierre Benichou.
Oui,
Tenez, regardez, on a retrouvé en régie un Jairo pour vous, Stevie. Ah.
Quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un.
C'était ça le succès de Jairo. Écoutez.
De plus loin. Il disait que la vie, que le monde.
Bon, là, il parlait un peu plus qu'il ne chantait.
C'est le nouveau, c'est l'islam, c'est l'ancêtre du slam. Tu vois, rien n'est nouveau.
Écoutez.
Qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus?
Oh là là, il était beau, c'était un beau mec. Hein.
On est arrivé à 17h surtout et on se retrouve tout de suite après. Merci Serge Liado.
On va se gêner sur Europe 1.
15h30, 18h, Laurent Ruquier.
La dernière heure d'On va se gêner avec Claude Sarraute, Pierre Benichou, Michel Bernier, Stevie Boulay et Jean-Marie Bigard. Yeah. Patricia Grégory, bonjour.
Bonjour.
Grégory est à Osny dans le Val d'Oise, Patricia est à Villeblevin dans Lyon. Bref, c'est on va dire un match quasi francilien, non? Quoique Lyon, non, c'est pas tout près. Oui, c'est vrai. Patricia, c'est où exactement Villeblevin?
C'est entre Sens et Fontainebleau.
Ah, oh, vous n'êtes pas très loin quand même.
C'est là où Albert Camus est mort.
Villeblevin, ouais. L'accident de voiture de Camus,
ouais,
c'est à Villeblevin.
Le 4 janvier 1960.
Patricia, vous saviez que Villeblevin était la ville où Camus avait eu son accident, donc?
Non, pas du tout.
Vous apprenez.
Il n'y a pas une pancarte « Ici est mort Camus » ?
Je ne suis pas aussi instruite que Pierre Benichou.
Non, mais enfin, quand même, vous habitez la ville.
Il n'y a pas une
plaque ? Oui, mais depuis peu de temps. Et puis bon, je passe toute ma journée au travail et je rentre le soir. Ah bah, Villeblevin, je ne connais pas trop.
C'est quoi votre travail alors, Patricia ?
Alors moi, je travaille pour une entreprise entreprise qui fabrique en France, donc il y en a plus beaucoup, qui s'appelle Thermo Baby. Donc je fabrique on vend des biberons, des chauffe-biberons, des rehausseurs de chaises, enfin tout ce qui concerne.
Ah, bah, très bien, parfait. Bah écoutez, ça peut intéresser Claude, des rehausseurs de chaises, parce que
ça peut intéresser Sarkozy aussi.
Pour les toilettes notamment.
Elle nous demande toujours Claude des petits coussins pour ses.
Tu veux dire des gros bottins?
Non mais pour les toilettes c'est important quand on est très vieux et qu'on a du mal à descendre jusqu'à la lunette, et ben on fait des rehausseurs de toilettes, ce qui permet de pouvoir s'asseoir et se relever plus facilement quand on est une personne âgée, c'est très important. Oui.
Et pour les petits aussi, parce que parfois, évidemment, ça leur fait des bosses quand la lunette se rabat sur la tête.
D'ailleurs, il n'y a rien de plus chiant, hein, franchement, pour parler parce qu'on est dans les toilettes, c'est quand le couvercle, la lunette, elle tient pas.
Ah oui,
c'est énervant.
Mais ça, c'est énervant. Il faut tenir avec le pied, arriver à tout avec mettre dedans avec un pied en l'air pour tenir la lunette, c'est un cauchemar. C'est un grand moment de solitude.
Patricia de Villeblevin, vous allez donc affronter Grégory d'Osny. C'est où exactement Osny, donc dans le Val d'Oise, Grégory?
Près de Cergy-Pontoise.
Voilà. Faites quoi, vous, Greg? Je peux vous appeler Greg, tout le monde vous appelle Greg.
Pas de problème.
Eh ouais. Qu'est-ce que vous transportez dans votre camion?
Un peu de tout.
Comment ça, un peu de tout? C'est-à-dire que...
Des émigrés, des... des sans-papiers.
C'est quoi votre parcours, alors?
La France nationale, voilà.
Combien de kilomètres par jour, Greg?
500-600 kilomètres par jour.
Ah ouais, wow, quand même. Ah oui, oui, oui. Alors, dites-moi ce qu'il y a dans votre... Comment on appelle ça? La cabine de camionneur.
Ah, les photos, évidemment.
Les photos. Quelles sont les photos?
Le calendrier avec des femmes nues.
Mais non, pas toujours, c'est peut-être fini, ça. Qu'est-ce qu'il y a?
Avec des femmes nues.
Alors il y a quoi d'afficher dans votre cabine?
Rien du tout.
Non. C'est triste.
Et vous n'avez pas une petite lumière spéciale pour discuter avec les cibistes que vous croisez, les copains et tout ça, non?
On n'utilise plus la cibi maintenant avec les portables.
C'est fini, ouais.
Vous écoutez en tout cas Europe 1 dans votre camion.
Voilà.
Et on va se gêner tous les après-midi. Qui sont vos favoris dans l'équipe, Grégory?
Claude Sarotte, j'aime.
Merci.
L'idole des routiers, Claude Sarotte. Patricia, vous avez un petit message à faire passer?
Eh bien, moi, je suis très heureuse déjà d'être aujourd'hui parce que mes deux idoles sont sur le plateau, c'est Jean-Marie Bigard et Michel Bernier, que j'adore.
Merci beaucoup.
Merci.
Il était temps de rajeunir l'équipe.
Ils sont formidables tous les deux. Oui, puis Monsieur Bénichaud aussi, tout le monde, de toute façon, vous êtes.
Non. J'ai jamais fait troisième, même à Auteuil.
Et puis, sans ça, faire un gros bisou à mon papa, ma maman, mon mari chéri et puis mes trois enfants.
Bon, vous êtes un peu là aussi pour gagner une semaine, évidemment, à Valoir. Un appartement, des forfaits remontées mécaniques, des entrées à la patinoire pendant une semaine, hébergement compris pour deux personnes.
Comment s'appelle l'hôtel?
Alors, c'est pas un hôtel, c'est un appartement, Pierre. Au pied du col Galibier.
Mais c'est pour l'année prochaine.
C'est la station village du champion Jean-Baptiste Grange. Mais non, on neige jusqu'à. On skie.
Non, mais c'est pour l'année prochaine.
Comment ça, pour l'année prochaine?
À Valoir.
Non, à Valoir. C'est le. Oui, Pierre, on l'a fait à chaque fois.
Non, c'est la première fois que je l'ai fait.
Poussez vos skis, enfilez vos bonnets, prenez de l'altitude. Valoir, c'est 70% du domaine skiable situé au-dessus de 2000 mètres. Vous vous rendez compte quand même?
C'est beau.
C'est pas mal. Hein,
prenez des moufles.
Patricia, Grégory, voici la question. Êtes-vous prêts?
Oui.
Qui hier a vu le panneau Enes Hir? Qui hier a vu le panneau Enes Hir?
C'est un sportif.
Non.
Un homme politique.
Oui.
Hollande.
Oui, et c'est quoi Enes Hir, Patricia?
Je sais pas, c'est en Bretagne.
Un rapport avec Sean Paul.
Alors allez-y, c'est en Bretagne, effectivement, Enes Hir. Je suis obligé de lui accorder la réponse. Puis, de toute façon, la question, c'était qui a vu le panneau Enes Hir? Elle m'a répondu
François Hollande.
Et qu'est-ce qu'il a fait hier, François Hollande?
Il est allé en Bretagne.
Oui, mais où est précisément?
Enes Hir.
Oui, mais qu'est-ce que c'est Enes Hir?
C'est pas l'île Longue.
L'île Longue, bravo Stevie, vous complétez la réponse de Patricia.
C'est la base militaire des sous-marins nucléaires.
Exactement.
Bravo. Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça?
Est-ce que j'ai
dans
ça
sa tête.
D'ailleurs, il y a eu pas mal de travaux aussi là-dessus, là-bas, là. Ça construit. Hein.
Ah, c'est vrai?
Nos bases militaires, elles ont du budget, parce que je peux vous dire, ça, en 3 ans, il y a eu des sacrés travaux.
L'île Longue, Enes Hir en breton, c'est une presqu'île bretonne située dans la rade de Brest, qui sert, comme l'a dit si bien Stevie, de base à la marine nationale française pour ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et François Hollande, en tant qu'éventuel futur président de la République, s'est dit, bon, bah, voilà, il faut que je sache où, si jamais j'ai appuyé...
C'est où la Bretagne?
Si jamais j'ai appuyé sur le bouton dans la Bretagne, il doit savoir où c'est, quand même. Même s'il est normand au départ, hein, vous savez.
Il est normand.
Ah oui, il est député en Corrèze, mais il est normand. Il vient de Normandie. Il vient d'une banlieue chic rouennaise qui s'appelle Mont-Saint-Aignan. Et ensuite, il est arrivé sur Paris. Il a habité Neuilly d'ailleurs. Et il a ensuite émigré vers la Corrèze. Enfin, juste il y a 2-3 jours par semaine.
Oui, c'est
Corrèze,
ça. Hein. Il n'y habite pas.
L'île Longue. Vous connaissez l'île Longue, Pierre Ménichoux, vous ?
Non, je ne connais pas l'île Longue. Mais c'est à côté d'où ?
C'est t'as Brest, t'as le détroit de Brest, et c'est juste dans le sud du détroit en fait. Elle ressemble plutôt à une île artificielle, vois-tu, puisque tout a été refait. Elle a été agrandie, l'île, je pense.
Oui, il vous a dit vois-tu.
Vois-tu, c'est ça. C'était juste en dessous de Brest, vois-tu. J'ai l'impression de parler avec un très vieil oncle.
Alors que c'est une jeune tante.
Ça suffit, hein.
Bravo.
Allez, alors. Et c'est reparti. Et...
Bien, Laurent.
Oh là là.
Tu as de sacrées fulgurances, toi.
Ah là 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 là. Impressionnant. Impressionnant.
C'est quand même... Écoutez, c'est si évident. Enfin,
je suis désolé. Non, mais non.
Ils s'impressionnent de peu, Pierrot. Hein. Hey, on va leur montrer un double 6. Hein.
Dis-moi, on va leur rendre le double 6. Non, mais c'est vrai que quand j'ai dit vieil oncle, j'ai dit putain, quelqu'un va le faire.
Eh oui, ben oui. Ça, je n'ai pas pu résister.
Mais il ne faut pas être gêné.
Grégory, en tout cas, vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas allé avec votre camion jusque là-bas, manifestement.
Non.
Mais y a toujours...
bah c'est interdit, de toute façon on peut pas y aller. Même les journalistes n'y ont pas accès à cette île.
Ah bah comment il est allé François Hollande défense.
Il a fallu seul lui a le pouvoir d'y aller. Mais sans
non, il n'a pas le pouvoir. Il a fallu qu'il demande l'autorisation au ministre de la Défense, Monsieur Gérard Longuet.
Voilà, mais les journalistes sont restés en dehors de cette île. Personne n'a le droit d'aller sur cette île, sauf les politiques et les militaires.
Les Allemands y sont allés hein, quand même sur cette île.
Ah bah ouais, si je veux ça dire, remonte à combien?
En 40.
En 40.
Ouais, mais il y avait rien.
Ils avaient installé un ancien camp, enfin un camp de prisonniers, une batterie anti-aérienne active jusqu'en 44
oui,
sur
et le blocos s'est resté, je crois.
Exactement.
Les blocos sont très difficiles à faire sauter, je vois, à l'île de Ré. Il y a un blocos absolument magnifique, énorme, mais qui gâche une partie de la plage.
Et
on a, à La Rochelle, il y avait toute la marine allemande, était sinon concentrée, du moins, toutes les infrastructures de la marine étaient là. Et il y a ce blocos qui est énorme et qui est en même temps très beau, un peu quiche, mais enfin, qu'il faudrait le faire sauter un jour. Ils disent, c'est pas possible, il faudrait évacuer La Rochelle. Si on le faisait sauter, tellement c'est lourd et c'est épais. Et pour faire sauter cela, ça ferait une déflagration qui risquerait de faire des choses. Donc on garde les blocos allemands. Nous, on y va avec maman parce que ça lui fait penser à son ami Hans.
Oh, ça c'est pas mal.
N'importe quoi.
Ah, c'est dégueulasse.
C'est pas parce que c'était mon parrain, mais il n'était pas nazi.
Qu'est-ce qui est dégueulasse, Claude?
Non, c'est dégoûtant d'abord. Donc, tu te rends compte, tu veux que je parle de ta vieille, moi?
Ah mais non, mais c'est parce que vous avez pris un prénom qui était le prénom de l'amant de Claude Sarraute, Hans, mais il l'a pas fait exprès, Pierre.
Ah, tu le parles comme tu n'as pas fait exprès.
Si je devais connaître le nom de tous tes amants, je serais le roi
mais
de la mémoire.
Mais justement, celui-là, j'ai garé des 40 ans. Et
40 ans, de 1940 à 1980.
Hans.
Claude, non, je vous jure que Pierre l'a pas fait exprès. Il savait pas que c'était.
Connaître le nom de tes amants.
L'homme de votre double vie, quand même, hein, quand même. Vous êtes culotté, Claude Sarraute. Hein.
Est-ce que ton mari était au courant?
Ben oui, je pense qu'il s'en doutait bien. Tu veux que je te.
Non. Ah oui, allez-y. Non, vous l'avez écrit dans un livre, alors.
Oui, mais je vais avoir le jingle.
Non, allez-y.
Oh, il m'a trompé. Non, c'est moi qui ai commencé. Il a découvert ça. Parce qu'il me demande, tu as quelque chose? Je dis oui, regarde dans mon portefeuille. Alors il voit dans mon portefeuille le numéro du monsieur. Alors il est très fâché. Moi je lui dis que c'est rien du tout. En tout cas, tout de suite après, peu de temps après, il me trompe. Mais alors fort. Et il me demande,
fort, comment,
c'est quoi tromper fort?
Ouais, c'est quoi?
Oh ben tu peux pas savoir ce qu'il
des
m'a
coups
fait.
De boutoir infernaux, des.
Non, c'est pas ça. Il a demandé il m'a dit qu'il allait demander le divorce. Ah bah. C'était une grosse louchon. Elle bouchait, elle était grosse comme ça.
C'est l'histoire d'Anne Sinclair.
Moralité, faut jamais laisser fouiller son conjoint dans ses boches. Une étude venant d'Angleterre, étude fournie par le gérant NCP, un gérant de parking, nous montre quelque chose qui va contre toutes les idées reçues. Quoi donc ?
à remettre les parkings en hauteur.
Non, non.
C'est
non.
par rapport au fait.
C'est-à-dire qu'ils ont regardé des films, puisque avec les parkings souterrains, évidemment, là où on range nos voitures, sont filmés 24 heures sur 24. Et en regardant comme ça 2500 heures de films, eh bien, ils ont pu quand même s'apercevoir de quelque chose qui va contre toute idée reçue.
Une différence entre les hommes et les femmes.
Oui, exactement.
Leur manière de se garer.
Oui, allez-y.
Alors, est-ce que les femmes veulent rester en haut des parkings et les mecs descendent au sous-sol?
Non, non.
C'est un genre comme ça?
Non.
Où on se gare plus en arrière, en avant?
Non.
Les femmes se garent toujours près de la sortie?
Non, bah. Pff,
les femmes se garent
près de l'entrée.
Les femmes se garent à l'oreille quand elles entendent que ça.
Ah non, prête à partir.
Eh ben justement, non, c'est contre ces idées reçues là.
Voilà, donc c'est les hommes qui se garent le plus mal, en fait.
Exactement. Les femmes mettent moins de temps que les hommes à se garer et à manœuvrer, et elles arrivent même à rentrer en marche arrière pour être dans le sens du départ pour repartir. Et en plus, elles sont les premières à trouver une place parce qu'elles roulent moins vite dans le parking. Donc, elles voient une place de parking. Alors que les mecs passent devant et il est trop tard, ils peuvent plus reculer. Bonne réponse de Michel Bernier.
Et en tant que femme conductrice,
Jean-Marie Bigard,
qui n'aime pas les parkings.
Les femmes trouvent plus facilement une place dans un parking. Elles sont également meilleures pour se positionner devant l'emplacement et effectuer la manœuvre. 39% se garent en marche arrière contre seulement 28% des hommes. Et un peu plus de la moitié des femmes sont garées exactement, ça si c'est intéressant, au centre de la place. Alors qu'un quart des hommes meurent de la ligne.
C'est pour ça que la femme d'ailleurs de Pierre, quand elle se gare, elle tape toujours la voiture de devant et de derrière, qu'elle fait un créneau, parce que ça fait 40 ans que Pierre essaye de lui faire croire que ça, ça fait 20 cm.
Ça, c'est le vieux truc. Ouais. Moi, en revanche, je vais vous dire, je suis très civique. Je ne sais pas si vous le faites, vous, mais quand je descends de ma voiture, ici, par exemple, au parking européen, oui. Je vous jure que c'est vrai, parce que il faut reconnaître quand même une chose, c'est que les places de parking
sont minuscules.
Pour être garé vraiment au centre sans mordre sur la ligne, il faut être costaud. Hein,
Il faut avoir une grosse voiture.
Écoutez, en tout cas, moi, quand je descends de la voiture, puis que je m'aperçois que je mords un peu ou que je suis trop sur la ligne, je remonte et je refais une manœuvre. Et parfois, ça m'arrive de le faire 4 fois de suite.
Ça, c'est gentil.
Et là, je me dis, t'es vraiment trop con.
Ouais. Ça vient aussi du fait que tu ne peux pas sortir. Quand tu t'aperçois que tu ne peux pas sortir de la voiture, tu t'écartes.
Non, voilà. Même quand j'ai pas de voiture des deux côtés. Vous aussi, hein, Michel, vous le faites.
Moi, je fais ça tout le temps. Je ne vais jamais au parking, j'ai horreur de ça.
C'est pas vrai, pourquoi ?
Je sais pas, j'aime pas les parkings.
Ah, moi aussi,
j'aime
moi
pas
j'ai
être
peur.
Enfermé. Ça,
mais
ça,
c'est
ça
propre aujourd'hui.
Moi, j'ai peur dans les parkings.
Moi, j'aurais peur.
Non, mais peur de quoi ? Peur de quoi ? Peur de quoi ?
Ah, non, un mec qui arrive avec un flingue, tu y es.
Mais ça, c'est dans les années 70. C'est les films de Claude Lelouch.
Non, mais c'est le côté claustro pour moi.
J'ai peur d'être violé.
Enfin, mon Pierre.
Pas vous. Mais il n'y en a plus des violeurs de parking.
J'en connais encore un dans le 18e.
Des violeurs de Pierre Bénichou, il y en a de moins en moins, ça c'est sûr.
Pierre, un grand garçon comme vous.
Moi aussi, je croyais que j'avais. J'ai quand même peur encore.
Non, j'ai peur.
Aujourd'hui, si tu avais eu l'enfance que j'ai eue. Hein,
c'est filmé en plus.
Donc on peut voir les films alors.
Ça va me consoler.
Ça change tout. T'imagines les vigiles de parking, ils se mettent les films.
C'est sécurisé, c'est filmé, Claude.
Mais c'est alors ça, je ne savais pas.
Vous n'avez rien à craindre.
Mais au contraire, comme ça, je pourrais me revoir.
Non, mais si tu as à craindre. Moi, j'ai rien à craindre. Mais il y a des moments dans la vie où on a à craindre.
Oui.
Ne serait-ce que pour un mari jaloux, une dispute qu'on a eue la veille, un truc comme ça, t'as à craindre. Si tu es dans la rue, tu ne crains rien. Dans un café, tu ne crains rien.
C'est le mari jaloux.
Dans un parking,
le mari jaloux, il te claque la gueule pareil dans la rue. Hein.
Claquer la gueule, on n'en a rien à foutre. On peut lui claquer aussi. C'est la solitude du parking. Là, tu es dans un huis clos. Moi, je te jure, je suis plutôt corpulent, comme tu dis gentiment.
Imposant, je dis imposant.
J'ai pas peur de me battre, j'ai toujours été plutôt nerveux et tout. Parking, j'ai le trac. Voilà.
Moi aussi,
je dis la vérité.
Mais ça s'explique. Bon, moi, je suis tellement vieille. Quand même, quelqu'un vient me chercher à un avion, je ne sais où, et je lui dis où t'es rangé, il me dit dans le parking, j'ai dit j'y vais pas. Parce que moi, tu comprends, j'ai mes bijoux.
Non, mais vous êtes
fou. Elle n'a pas peur de se faire violer, elle a peur de se faire voler.
Non, mais elle a 3 kilos d'or sur elle.
Non, mais le pire, c'est les gens qui ont le parking et qui est le confort, paraît-il, est du luxe. Et le parking, l'ascenseur
monte directement dans ton appartement.
Mais vous êtes resté dans les années 70 et 80. Ouais, c'est dans les années 70 et 80 qu'on flinguait dans les parkings.
Et puis maintenant, ne serait-ce que
il
pour
accéder. Il t'attend, là, il est là, il monte chez toi.
Pour accéder à ton parking, il faut une carte maintenant. C'est plus en accès libre. Il faut la carte du parking que tu passes dans le truc pour que la porte s'ouvre.
Comme c'est difficile d'avoir une carte de parking.
C'est lecture automatique des plaques, d'ailleurs.
Une dernière petite question avant l'invité d'honneur. Qui a déclaré une seule nomination au César? J'encule le cinéma français. Allez-vous faire baiser
avec Mathieu Kassovitz.
Mathieu Kassovitz, vous m'avez pas laissé terminer. Il terminait par aller vous faire baiser avec vos films de merde. Mathieu Kassovitz, bonne réponse de Jean-Marie Bigard.
Les violons.
Et de Michel.
Et Michel Bernier. Michel. Une seule nomination au César, j'encule le cinéma français. Allez vous faire baiser avec vos films. C'était élégamment dit.
Oui, on sent que c'est un moment de colère quand même.
Ah, oui. Autrement,
il n'aurait pas dit.
Mais pourtant, c'est déjà bien une nomination pour son film L'ordre et la morale, surtout dans la catégorie meilleur scénario adapté. C'est lui qui l'a adapté, le scénario, donc il devrait être content. Moi, je l'ai vu, ce film qui était plutôt pas mal, qui n'a pas très bien marché, c'est vrai, mais qui était plutôt pas mal. Donc, je vois pas pourquoi il est mécontent.
Mais je crois que c'est par rapport à la politique, non? C'est par rapport.
Il a du talent, Kassovitz.
Mais oui, il a du talent.
La haine, c'était très bien.
La haine.
La haine, c'était formidable.
Oui, mais là, le film.
Oui, c'est ce qui l'a rendu célèbre, d'ailleurs.
Il est sorti en même temps que celui de Clooney, c'était le même sujet.
Quel film de Clooney, Claude Sarraute?
What else?
Ah, je ne me rappelle plus le titre.
Parce que Mathieu Kassovitz, c'était sur la Nouvelle-Calédonie, son film, donc je serais bien surpris que Clooney fait un film sur la Nouvelle-Calédonie.
Non, c'était les histoires, comment on devient président.
Ah ben, ça n'a rien à voir avec le film de Mathieu Kassovitz. Voilà. Vous racontez vraiment n'importe quoi dans cette émission.
Ah, mais arrête,
tout à l'heure.
Si je me suis trompé, j'ai bien le droit.
Bah non, vous n'avez pas le droit, je suis là pour rectifier, Claude Sarraute.
Oui, mais tu dis pas que je raconte n'importe quoi.
Tu oserais faire ça chez Bouvard?
Je me serais gêné.
Dans un instant, l'invité d'honneur.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Bonsoir, invité d'honneur. Claude Sarraute, Pierre Bénichoux, Jean-Marie Bigard, Michel Bernier, Stevie Boulet vont devoir vous identifier. Devinez qui vous êtes, vous êtes installé dans la loge. Est-ce que vous êtes bien installé?
Je suis remarquablement installé. Je ne vais pas tarder à m'endormir.
Parfait. Ah bah. Vous allez pouvoir répondre aux questions de mes camarades. Attention, des oui ou des non suffiront parce que ils pourraient reconnaître votre phrasé ou même, évidemment, votre humour si vous en avez et ce serait aller trop rapidement. Donc, dans un premier temps, oui ou non, c'est parti.
Vous êtes un homme?
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes impatient? Parce que là, on a bien compris que vous impatientiez.
Vous, ça vous arrive souvent, les micro-sommeils?
Oui.
Ah bah vous êtes... enfin, pas tout jeune. Excusez-moi. Je sais pas comment me rattraper.
Là, t'es cuit, là. C'est foutu, là. C'est foutu.
Oh, c'est pas possible.
Est-ce qu'on a fait appel au service de sécurité que vous êtes rentré à Europe 1 pour éviter de te trop agresser par vos fans?
Ah non.
Vous êtes passé pratiquement inaperçu?
Oui.
Et vous êtes quelqu'un de plutôt sérieux?
Ah,
pas du tout.
Alors, on connaît pas votre visage?
Si. Oui.
Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue?
Oui.
Oui. Vous avez des lunettes?
Pas en permanence.
Non, il n'est pas connu pour porter des lunettes, en tout cas.
D'accord.
Non.
Est-ce que vous vous servez de votre voix pour dans votre travail?
Oui.
Ou plutôt... Moi, j'ai jamais vu quelqu'un. Ah, si, Chaplin.
Qui, comment ça?
Parce que quand on dit vous utilisez votre voix, dans les médias, vaut mieux. Enfin, ne peut utiliser sa voix dans
un
les
écrivain,
médias.
Par exemple.
Oui, mais il vient toujours présenter un livre.
Un sportif utilise très peu sa voix aussi, vous voyez.
Ah ouais, vous avez raison, ok, non, d'accord.
Non.
Et le mime marchand utilisait très peu aussi sa voix.
Mais ce n'est ni Charlie Chaplin ni le mime Marceau que nous avons dans notre loge.
Est-ce que vous êtes marié?
Oui.
Oui, vous êtes marié. Vous avez des enfants?
Oui.
Vous avez des amis gays?
Oui.
Oui.
Quelle question! Et pourquoi vous posez ce genre de
questions? Ça en dit beaucoup, je trouve.
Ah ouais, alors surtout un père de famille.
Oui, ça veut dire qu'il est super open, qu'il est drôle. Mais enfin, il n'y a rien de
vous mal. Vous êtes super open?
C'est pas super open, ça veut dire qu'il est ouvert et il n'a pas les idées.
Super open.
Il a pas les idées, comment on appelle ça, austères, quoi. Il est open sur le monde, sur la vie.
Pierre Bénichoux.
C'est le contraire. Maintenant c'est un exercice obligatoire de dire vive les homosexuels maintenant.
Non, c'est parce que je lui demande. Je lui demande s'il a des amis gays autour de lui.
C'est justement ceux qui disent j'ai pas beaucoup d'affinité avec les gays. Ceux-là sont les révolutionnaires, pas les autres.
Bien d'accord.
Voici un premier indice pour vous, mes camarades. Just teach me to despise. Will time make man more? Vous avez reconnu cette chanson, invité ?
Pas du tout.
Alors ça, c'est assez incroyable.
Tu te rends compte que l'indice, il est difficile pour l'invité, tu imagines pour nous, quoi.
Bah, j'essaierai de trouver un indice plus facile tout à l'heure.
Il y a un côté comédie musicale dans cet indice.
C'est une chanson, en tout cas.
C'est une chanson.
Je peux même vous dire...
Je sais ce que c'est l'indice, c'est que vous n'avez rien à voir avec cette chanson.
La chanson, je peux même vous donner le titre, parce que ça ne vous aidera pas. Ouais. La chanson, c'est Shapes of Things et le groupe The Yardbirds.
Alors, est-ce que vous êtes dans le milieu de la chanson ?
Non,
oui, enfin.
Vous avez chanté, mais enfin, c'est pas votre.
Non.
Voilà, alors, votre carrière ne repose pas là-dessus.
Vous êtes acteur. Vous êtes acteur ?
Non.
Vous êtes producteur ?
Non.
Non, alors donc vous écrivez des livres, bien sûr.
Non.
Vous êtes présentateur télé.
Alors, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ?
Vous présentez la télé.
Il a présenté à la télé, c'est vrai.
Ah. Il l'a présenté.
Oui.
Oui.
Mais vous ne présentez plus.
Alors,
vous avez présenté des émissions de divertissement ?
Ah.
Oh, oui, on sent le... Ah.
J'ai un deuxième indice pour vous.
Mais toi et moi, nous vivrons d'amour sans faire un pas vers quelques détours. Oui, toi et moi, nous vivrons d'amour heureux jusqu'au dernier jour.
Je tiens à vous signaler, invité, que Stevie vous a déjà identifié. Il vient de me donner votre nom sur un petit bout de papier. C'est le premier, en tout cas.
Alors moi, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà présenté le journal télévisé.
Non.
Est-ce que vous avez reconnu la chanson là qu'on vient de passer ?
Oui.
Ah, ça, vous avez reconnu.
Oui.
Vous avez présenté des jeux, plutôt ?
Oui, aussi, oui.
On peut dire ça aussi.
Aussi.
Oui.
J'ai un troisième indice, parce que je voudrais quand même que Jean-Marie Bigard et Michel Bernier, je compte pas beaucoup sur Claude Sarraute et Pierre Bénichoux, hein, parce qu'ils se sont endormis déjà, mais j'aimerais bien quand même que Michel et Jean-Marie trouvent. Alors, voici un nouvel indice.
À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français, j'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau, pas bien, j'étais bande à part et boudeur, je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléoné, 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 Napoléoné.
Ça vous aide, Claude Sarraute ?
Non, mais...
Bah, est-ce que notre invité est corse ou un rapport avec la Corse ?
Êtes-vous corse ?
Non, mais là, dans ce que vous avez donné, il y a un double indice.
Double indice.
Alors, vous vous appelez Serge ?
Non.
Vous appelez Lama.
Vous crachez souvent.
Oui. Vous avez déjà été gardien de but.
Oui.
Est-ce que vous êtes est-ce que vous aimez le théâtre?
Oui.
Est-ce que t'en fais?
Non.
À qui vous pensiez, Michel?
Je pensais à Gérard Holtz.
À Gérard Holtz. Notre invité n'est pas Gérard Holtz. J'ai un indice qui devrait aider normalement Jean-Marie.
Oh bah.
Jean-Marie et Michel m'ont donné tous les deux un nom. Allez-y, en même temps, Jean-Marie et Michel.
Jackie.
Ah ben non, pas le même. Frédéric Lopez.
C'est ni l'un ni l'autre.
Oh, allez-y ensemble.
Je vous ai bien eu. Hein. Ce n'est ni Jackie ni Frédéric Lopez. Aïe, 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 aïe.
Vous appelez Dorothée Lama ou...
Lundi 7 peut-être alors.
Les quatre amis. Déjà, vos papas, vos amis, les quatre amis, vous diront les secrets de la vie. Si tout cancan est astucieux, Belle-Belle est la plus jolie.
C'est plus monsieur le plus sérieux.
Les quatre amis vous invitent à jouer aujourd'hui.
Là, il faut trouver Jean-Marie Bigard parce que vous allez avoir la honte dans deux minutes, hein, je vous préviens.
Merde.
Michel, non, toujours pas. Vous pouvez dire le nom maintenant.
William Lémergie.
William Lémergie, non. Stevie Semar, Pierre Bénichoux et Claude Sarraute sont
hors course.
Vous
connaissez tous en plus, même toi, Pierre, je te jure.
Mais c'est et sûr. Moi, c'est
alors,
sûr.
J'ai un générique, allez. Un générique là, le huitième, qui devrait peut-être appeler quelque chose à quelques-uns.
Ah, oh, oh. Bah oui, bien sûr, ça y est.
Alors,
c'est la gaffe.
Vincent.
Ah non, c'est pas la gaffe.
Non, mais je peux le dire.
C'est
allez-y.
Fabrice.
C'est Fabrice, évidemment. Eh oui, Fabrice. c'est notre invité d'honneur.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Une première sur Europe 1, Fabrice.
Mais pas du tout.
Non ?
Ce que vous ignorez, c'est que ma carrière a commencé à Europe 1.
Sans rire.
Oui, j'ai commencé 15 jours à faire de la radio ici, dans cette belle
maison. 15 jours.
Pas 15 jours. Au bout de 15 jours, ils m'ont viré en me disant « Vous ne ferez jamais de radio de votre vie
». Ça tombe bien, ils m'ont fait la même chose à mes débuts ici aussi. Mais je suis revenu, moi.
Bah, tout arrive, vous savez, au début, hein, on ne sait pas trop ce que les gens vont devenir.
Parce que vous avez quand même fait 35 ans de la radio d'en face.
Oui.
35 ans d'RTL, non, c'est énorme.
Oui, 35 ans RTL, oui. C'est,
ouais. Allez,
De 1965 à 2000, pas le roi, l'empereur.
Voilà. Ah, c'est à cause de ça,
eh oui, Napoléon, l'empereur de la radio.
Ah, voilà, oui.
C'était l'empereur.
Eh oui.
Qu'est-ce que vous criez aux gens? Moi, j'étais gamin, mais j'écoutais la casse 13h. C'était à l'époque de la casse 13h, l'empereur. Et qu'est-ce que vous criez aux gens quand ils vous répondaient « Vive l'empereur !» Votre bonjour.
Bah, je sais plus, je disais « Ah oui, bonjour grenadier » ou je sais pas quoi.
On peut le refaire, juste pour la première fois sur Europe 1. On va crier vive l'empereur. Alors, à vous de dire bonjour grenadier. Attention, 1, 2, 3.
Vive l'empereur !
Il n'a pas dit bonjour grenadier.
Peuple aimé, je disais aussi. Peuple aimé, oui.
35 ans d'RTL. Oui. Mais alors, Fabrice, c'est pas votre génération normalement, Stevie ?
Ah, bah si, c'est ma génération, la classe, etc.
J'ai vu, moi, tout ça.
Puis il a présenté une émission sur TF1 sur les mariages. Oh, ce qui m'a validé l'indice. Ah, si, il y avait les mariages. Il y avait deux mariages en concurrence sur TF1. Moi, je me rappelle très, très bien.
Mais quel indice vous a apporté les mariages?
Eh ben, le mariage, c'est à un moment, il y a un indice, le deuxième indice passé, c'est là que la révélation...
Ah non, mais ça n'avait rien à voir, le deuxième indice, écoutez-le.
Et moi,
ça c'est Sophie Garel à l'Eurovision de la chanson, notre copine Sophie.
Oh, ma Sophie.
Et oui, votre Sophie. Avec qui, évidemment, Fabrice a fait des années
longtemps,
de duo sur
longtemps,
RTL.
Longtemps. Et elle a chanté à l'Eurovision pour le Luxembourg, avec un garçon, j'en joue bien.
Chris Baldo.
Et elle a commis cette chose admirable.
Pourquoi elle n'a pas chanté avec vous? Ça aurait été mieux.
Ça aurait été, oui. Non, à l'époque.
Puisque vous avez chanté. Alors, on avait comme premier indice, effectivement, The Yardbirds. Et vous aviez fait une reprise de cette chanson dans les années 60.
De celle-là?
Ah oui.
Ah oui, c'est possible.
J'ai même la version française.
Oh non, oh non, pas ça.
Ah si, écoutez.
Oh non, je veux pas.
Enlève ton casque.
Oh non. Ah oui, c'est vrai. Bah ça va, ça le fait. C'est pas si mal. Bah non, c'est bien. Ah oui, c'est vrai.
Tiens, ça fait au moins 3 mois.
Oui.
Ça fait plus de 3 mois qu'on vous a pas vu, Fabrice. Vous êtes en Suisse, vous vivez en Suisse.
Oui.
Vous reposez.
Ah, complètement.
Vous êtes à la retraite.
Ah, total. Pour l'air ou pour le pognon? Un peu. Je laisse la médisance passer.
Et laisse venir aussi les remerciements que je te dois, parce que on demande qu'à en rire quand même à l'époque de la classe. C'est grâce à toutes tes bonnes notes.
Ah, oui.
Que je suis devenu ce que je suis
absolument.
18, Bigard, très bien Bigard.
J'en suis très fier d'ailleurs tous mes élèves. Je suis très fier de voir ce qu'ils sont devenus.
Et il y avait déjà des trucs un peu gonflés, tu te souviens? Je me faisais engueuler par la production parce que des fois c'était un peu trop grivois.
Oui, mais moi j'aime bien.
Ouais.
Claude Sarraute, vous ne connaissiez pas Fabrice?
On ne s'est pas croisé, je crois.
Non, voilà, je ne le connais que de réputation, je suis très célèbre.
Oui, très célèbre.
Ah oui, mais je n'ai jamais vu une de tes émissions.
Non.
Oh. Même pas la classe.
Bah, confidence pour confidence, moi non plus.
Oh, bah, tu vas pas te vexer.
Ça sera le dernier à se vexer, vous savez, pense.
Mais en plus, mon pauvre enfant, tu n'as que 70 ans.
Oui, je n'ai que ça, oui.
Oh, moi, j'en ai 85.
C'est pas une raison pour vous déshabiller. Elle est en train d'enlever son pantalon.
Pas du tout, je remonte.
Après le haut, le bas.
Je remonte ma chaussette. Ça m'a
Il y a quand même un indice qui était important, c'était l'indice 6 qui aurait dû vous mettre tout de suite sur la voie, Jean-Marie.
La valise.
Ah oui, moi je pensais à Dorothée, moi.
Mais non, la valise RTL.
La fameuse valise RTL.
Vous en avez fait un sketch
mémorable, extraordinaire.
Jean-Marie, juste pour nous, comment ça faisait, Fabrice?
Vas-y.
Bah non, il disait bonjour, alors Madame Michu, c'est RTL, est-ce que vous connaissez le prix de la valise? Elle dit ben j'écoutais encore il y a 5 minutes, mais j'ai été obligé de partir à l'hôpital parce que mon enfant est malade, on va lui couper les deux jambes aujourd'hui. Il dit oui, mais allez-y, vous êtes peut-être pas loin. Alors elle disait ben 6742. Il disait ben Madame Michu, vous avez bien dit 6742. Oui. Oh, quel dommage! C'était 6741! Un franc près! De RTL, tous les matins, ils font chier les gens pour leur expliquer qu'ils ont paumé 50 000 balles.
Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la parodie faite par mon petit camarade est très en dessous de la réalité.
Ah oui, oui.
Ce qu'il a, ce
tu m'as raconté
qu'il...
des anecdotes. Oui.
Vous êtes tombé sur des gens, parce que à l'époque, c'était vraiment au hasard dans la nouvelle.
Totalement au hasard.
Ah, c'est génial.
Ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Moi, j'ai eu des choses où je me suis senti extrêmement mal à l'aise parce que je suis tombé une fois sur une malheureuse qui était en train de veiller le corps de son mari. Et j'étais en train, moi, de rigoler, de faire l'andouille et de lui demander le montant de la valise. Il me dit, monsieur, je connais bien votre émission, je vous remercie infiniment, mais je suis en train de veiller le corps de mon mari qui vient de mourir. Évidemment, on se sent extrêmement mal à l'aise.
Tu n'as pas dit, oh, quel dommage!
Non.
Oh, c'est ballot!
Je me suis excusé.
C'est ballot!
Et le bruit de la valise, comment le bruit du téléphone faisiez bien ça? C'est vous qui le faisiez, Jean-Marie?
Oui, mais je me souviens plus. Comment je faisais?
Non, c'est moi qui le faisais.
Ah, c'est vous?
Ah oui. Parce qu'à l'époque, les sonorités du téléphone étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Et il y avait, quand on cherchait un numéro, ça faisait, je vais essayer de le refaire, mais la joue est devenue
de mémoire.
Un peu flasque, la joue. Alors, c'est plus difficile.
Avec la joue, avec la joue qui tremble.
Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on peut dire sur quoi reposait votre carrière? Eh bien, sur ceci, monsieur.
Écoutez, je suis tellement heureux de vous avoir en face de moi, Fabrice, sur Europe 1 en plus. Et je tiens à vous dire que si vous êtes à Paris, et je dis à tous les auditeurs et téléspectateurs futurs de l'émission de samedi soir, c'est aussi parce que Fabrice sera exceptionnellement en guest star, jury d'On ne demande qu'à en rire, pour notre premier prime.
C'est bien, ça.
Oui, évidemment, parce qu'on
reprend du service.
Parce qu'on s'est dit quand même, voilà, la génération d'avant. Il y a eu le théâtre de Bouvard dans les années 80,
absolument,
c'est vrai.
Oui.
Mais dans les années 90, c'était la classe. Et Fabrice sera dans notre jury samedi soir pour notre premier prime d'On ne demande qu'à en rire. 20h35 sur France 2. On en reparle dans un instant. Fabrice est sur Europe 1. C'est notre invité d'honneur sur Europe 1. Quelques minutes encore ensemble. C'est vrai que vous connaissez quand même moins bien la station de la rue François 1er que celle de la rue Bayard.
Oh, je la connaissais relativement bien à l'époque parce que c'était la grande époque d'Europe quand j'ai commencé ma carrière et que j'y avais des amis, de nombreux amis, donc je connaissais tout de même assez bien cette maison.
Alors moi je vous le dis parce que je suis heureux de le faire face à tout le public ici présent, mais aussi devant les auditeurs. Vous êtes pour moi le modèle. Quand j'étais gamin, je voulais être animateur radio pour faire Fabrice à la radio. Je sais pas si j'y suis vraiment arrivé. Mais en tout cas, vraiment, vous étiez le modèle. Et vous restez pour moi encore aujourd'hui le meilleur animateur radio que toutes les radios aient jamais connu.
Ah, je partage cette opinion.
Mais parce que vous étiez capable d'improviser, de parler aux auditeurs, mais vraiment, j'en ai pas connu un comme vous depuis. Vraiment.
Ben, je suis très flatté, c'est très gentil. Évidemment, ça me surprend toujours quand on me dit ce genre de choses, mais je dois avouer que honnêtement, je suis très flatté.
Mais c'est la vérité, parce que vous nous avez fait rire, vous nous avez fait vraiment hurler de rire avec rien parfois, parce que vous improvisiez totalement.
Totalement.
Fabrice, de votre vrai nom, François Fabrice Simon.
Non. Fabrice n'a rien à voir avec moi.
Ah bon, c'est vrai?
Non, c'est un nom que j'ai pris comme ça, tout à fait par hasard. Tout simplement à cause ou grâce à Fabrice Del Dongo.
Donc Fabrice, c'était pas votre vrai prénom au départ, de toute façon, même pas le deuxième.
Non.
François Simon, c'est votre vrai nom et votre vrai prénom.
François Simon Bessy.
Très bien. Votre papa était René Simon.
Oui,
Simon, le
comédien.
Oui, des Cours Simon.
Des Cours Simon.
Oui, le fondateur des Cours Simon. Et c'était mon père et j'ai été adopté par mon beau-père.
Maurice Bessy.
Maurice Bessy, qui était un grand journaliste de cinéma et qui a fini patron du Festival de Cannes. Et j'ai été adopté par lui avec l'autorisation de mon père, sans déchéance de paternité, ce qui veut dire que je porte le double nom et j'avais deux pères légaux, ce qui est très rare.
François Simon Bessy. Les Cours Simon, vous touchez toujours du pognon des Cours Simon?
Rien. Ah bon. Oh là là, non, absolument, j'ai rien à voir avec les
Cours Simon. C'était une institution, il n'y a pas un grand acteur français de Michel Morgan de cette époque-là, oui. Daniel Gélin, machin, jusqu'à des gens qui ont maintenant encore qui ont 40 ans à peine, qui sont passés par le cours Simon. C'était une institution.
Vous, vous les avez fait ou pas?
Un petit peu, je suis. En fait, j'ai toujours voulu être acteur sans jamais l'avoir su. Je m'en suis rendu compte quand j'ai pris ma retraite. Qu'en fait, j'aurais voulu être acteur. Bon. Et je ne le savais pas. Mais ils m'ont tellement découragé, aussi bien mon père que mon beau-père. Tout le monde était dans le spectacle dans ma famille. Et ils m'ont dit, c'est les métiers de saltimbanque, ne fais pas ça. Fais un métier sérieux, avocat, notaire, pharmacien, etc. Bon, voilà.
Et vous êtes parti finalement faire de la radio et de la télévision aussi de temps en temps. C'est vrai qu'une de vos premières apparitions télé, parce que vous étiez avant tout une voix, avant d'être un visage, c'est sur le tard, au fond, que la télévision est arrivée pour vous.
Relativement, parce que d'abord, à l'époque, il y avait peu de chaînes. Ensuite, que c'était une chasse gardée, que quand on arrivait de la radio, on n'était pas accueillis les bras ouverts. Et ensuite, c'est venu lorsqu'il a commencé à avoir un certain nombre de chaînes qui se sont développées. Là, j'ai fait de la télévision, mais c'est à peu près 10 ans après.
Alors, les quatre amis, ça c'était pour les enfants, effectivement. Oui. Une de vos premières apparitions. C'est pas né, Stevie.
Non, là, je connais pas.
Ça, vous connaissez pas.
Je voudrais raconter à Stevie un truc sur le cours Simon. C'est que c'était quelque chose qui était un peu... On trouvait ça un petit peu ringard à la fin. Mais tous les plus grands comédiens y retournaient quand même. Et c'était devenu une expression vraiment populaire. Quand tu disais à quelqu'un, t'as qu'à lui dire que tu l'aimes, même si tu l'aimes pas. La réponse était, j'ai pas fait le cours Simon. Hein.
Ouais. On avait calculé qu'il y avait eu 600 personnes, c'est beaucoup, hein, 600 personnes qui étaient passées par le cours Simon, qui avaient fait une carrière au théâtre ou au cinéma, soit comme acteur, soit comme régisseur, ou comme dialoguiste, ou comme auteur dramatique, etc.
À la radio, la carrière de Fabrice, on l'a dit, c'est la Casse Trésor, Casino Parade pendant des années, des années. Aussi le Stop ou Encore, de temps en temps, les week-ends, quand vous animiez les week-ends avec Sophie.
Mais le Stop ou Encore, c'était bien.
C'est gallois, ça.
Ça c'est l'Europe Stop, vous confondez tout, Stevie. Et à la télévision, effectivement, on a oublié une émission sur Canal Plus qui était assez incroyable, qui s'appelait Tout s'achète.
C'était terrifiant, ça.
Oh là là.
C'était terrifiant parce que moi, je ne suis pas d'un caractère très offensif. Moi, je suis plutôt quelqu'un de calme et de timide parfois, sauf quand je suis sur scène. Mais et là, j'étais dans la rue et il fallait que je me viole pour faire cette chose incroyable.
Oui, ça a dû te coûter, hein,
Ça me coûtait, moi, de faire ça.
C'était assez méchant, quoi.
C'était quoi?
Alors, j'explique le principe. J'étais dans la rue, je prenais une personne au hasard et je lui disais bonjour madame, etc. On voyait les caméras, hein, c'était pas de la caméra invisible. Je vais vous acheter votre pantalon.
Ah, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu.
Évidemment, elle me disait, mais enfin, monsieur, vous êtes fou. Non, je vous achetais votre pantalon.
Et là,
proposais de l'argent. Et je montais les prix jusqu'à ce qu'elle finisse par me vendre son pantalon.
Oh, c'est horrible.
C'est épouvantable.
Ouais, c'est épouvantable.
Et alors, moi, je me violais pour faire ça, parce que c'est pas mon caractère. Et alors, comme je ne suis pas quelqu'un...
Tout s'achète. C'était en 85 sur Canal.
Et les gens qui étaient dans une position un peu difficile, qui se laissaient manœuvrer par moi, parce que c'est pas leur métier, etc. Je leur disais, écoutez, là vous avez fait une mauvaise affaire. Ne le vendez pas à ce prix-là, c'est pas bien. Moi, je vous prends votre soutien-gorge dans la rue. Bon, au moins tirez-en un profit intéressant. Alors, vous m'avez dit oui, moi j'ai entendu non. Alors, je vais vous proposer 1000 francs de mieux. Oui, non, c'est pas assez.
Et du coup, ça foutait en l'air le principe, quoi.
Oui, mais ça fait rien, parce que je voulais pas.
T'avais meilleure conscience.
Oui, voilà.
Ou alors de faire passer dans un
lavabo. Oui, je vous aurais donné le pantalon pour 10 euros.
Déjà, je me serais mis juste devant une station de pompiers, enfin, devant une caserne de pompiers, tu vois, et après.
Peut-être pas prudent,
Ou par exemple, faire passer un cabriolet dans une machine à rouleaux, tu vois. En disant, vous restez dans la voiture et vous passez à travers les rouleaux.
C'était terrible.
Un dernier mot, Fabrice, sur Sophie, parce que nos auditeurs la connaissent, elle a fait partie de notre équipe pendant de longs mois longues années à la télévision et à la radio, Sophie Garrel. Et moi, je me souviens vous avoir entendu quand j'étais auditeur de vos émissions chez Sophie, c'est-à-dire que vous faisiez des émissions chez elle.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, vous n'alliez même pas faire, vous étiez feignant au point de ne pas faire la radio à la radio, mais chez vous.
J'ai même fait des émissions depuis mon lit.
Ah oui,
ce qui n'est pas fréquent.
Si.
Mais alors comment on faisait?
On tire des lignes. Tu sais, on tire des lignes et puis on branche les micros, les machins, puis voilà, ça marche tout seul.
Quelle époque,
parce que elle n'était pas beaucoup plus courageuse que moi, Sophie. Ouais. Et alors, elle le dimanche, parce que ça se passait le dimanche pendant le week-end, elle voulait faire de la cuisine pour ses enfants. Ça la passionnait beaucoup plus que le show business. Et alors, on faisait ça chez elle, parce que comme ça, elle pouvait cuisiner.
C'était une belle
époque.
Quoi,
c'était une période où personne ne se prenait au sérieux.
Ah non. Mais c'était en quelle année, ça, rappelez-moi?
Année 80-90. Oui. Voilà, à peu près. Jusqu'en 2000, vous avez été à RTL.
Oui, jusqu'en 2000.
Animateur de cette station pendant 35 ans. Merci Fabrice d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous tous.
Et on se retrouve samedi soir sur France 2 à partir de 20h35. Vous allez voir une nouvelle génération d'humoristes, puisque dans la classe, vous avez vu passer Pierre Palmade, Michel Larocque, Jean-Marie Bigard, Muriel Robin et des tas d'autres, Jean-François Derek et j'en passe. J'en oublie peut-être Jean-Marie de cette génération. Anne Roumanoff, évidemment. Anne Roumanoff. Et donc, je vous présenterai la nouvelle génération des humoristes samedi soir et il faudra les noter à nouveau, sérieusement. Fabrice,
oui, mais non, mais je les connais déjà. Hein.
C'est vrai.
Ça ne sera pas le plus sévère.
Non, je suis
non,
pas.
Il est gentil.
Je suis pas sévère, moi.
Alors à samedi soir, 20h35 sur France 2 avec Fabrice comme invité dans le jury. À demain, 15h30, on se retrouve sur Europe 1. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.